Bonsoir à tous
et à toutes.
Microclimat, performance radiophonique du 1er au 6 mai au théâtre Le Fil à Plomb, tous les soirs à 21h et le 6 mai, une soirée spéciale électorale à partir de 19h30.
Tous les soirs à partir de 19h120.
Et pour être plus précis, à 20h60.
Avec Timbre Poste, Cédric Marronnier, Albert Mélé, Badradine Regueg, Cécile Jacquemet, Fabrice Saillet et Laurent Violet.
Si t'as pas le radis et si t'as les crocs, viens qu'on te déroule tous nos bobineaux.
Microclimat, performance radiophonique du 1er au 6 mai au théâtre Le Fil à Plomb à Toulouse. Réservation 05 62 30 99 77.
Éteins la télé, écoute la radio.
À partir du 2 mai, retrouvez Microclimat sur FMR Booster 89.1 de 9h à 10h. Et une spéciale électorale le 6 mai en direct à partir de 19h30.
Éteins la télé, écoute la radio.
Écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 5 mai 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la Fashion Week en Lycra que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Et si jamais Son Altesse Sérénissime se présente sur le salon, oui. Est-ce qu'il va falloir céder aux règles du protocole est-ce que vous allez mettre les filles avec les meilleurs cosplays de princesse en premier ou ce genre de choses
hein. Non, mais il est marié maintenant, le prince.
Oui, mais on ne sait jamais.
Non, mais surtout,
cour.
Est-ce que vous allez lui mettre une tête de Sonic sur la tête?
On verra sur le moment, je pense. Je ne vais pas dire oui. Non.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, bonjour à tous, bonjour Ultimatum.
Salut Das Creek.
Bonjour à Junkel, donc ça fait plaisir.
Il avait demandé qu'on l'appelle Olivier.
Et donc voilà, Olivier, bonjour. Salut.
C'est bien, c'est à ça que ça sert la préparation d'émission. Tu vois, tu dis un truc et en fait tu dis blanc, c'est noir en fait finalement à l'antenne.
Y a pas de problème.
Y a pas de problème. J'ai l'impression qu'il est un petit peu énervé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a jeté son armoire avec ses petits trésors.
Ah oui,
pareil, les cassettes étaient un petit peu poussiéreuses.
Attends, on va y aller avec tes pincettes. Du sport.
Oui.
Ah, il n'y a pas le micro du sport.
Ouais, je n'ai pas de micro.
Ah, voilà, c'est mieux.
Ça va ? Tu vas bien ?
Ouais. Oh. Oui, je termine ma préparation là.
L'athlétisme, la préparation, tout ça, oui, je
comprends. Tout à fait.
D'accord. Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 315. La semaine dernière, nous n'étions pas à l'antenne tout simplement parce que nous étions dehors en train de profiter du beau temps, des voitures qui faisaient du drafting sur le parking et des filles aux oreilles de chat en jupe très courte puisque nous étions
et
au TGS ou un ami.
Pas que les jupes qui étaient courtes. Oui, on en s'est fait plaisir.
Pour une fois.
Voilà.
Et on a.
D'ailleurs,
on était censé interviewer les voix de tes séries favorites, hein. On l'a même pas fait, tu vois.
Eh ben ouais, on a fait des grosses feignasses.
Feignasses
cette année,
pour une fois, oui. On le reconnaît, on s'excusera auprès de Rafi, auprès de Sébastien.
Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est
qu'on avait reçu il y a 15 jours et donc, dont vous avez entendu précédemment, voilà.
En tout cas, ça fait vraiment plaisir de profiter de ce salon en touriste. Parce que jusqu'à présent, on voyait rien, hein, puisqu'on faisait nos émissions en direct, ou alors on était occupé à ramener des images en vidéo, du son. Là, c'est vrai qu'on a pris le temps de savourer.
On s'emmerde pour vous, pour nous, c'est du boulot, quoi. On peut même pas mater les filles. Là, on a pu.
J'ai même testé pour nos amis auditeurs, et c'était juste. Par respect professionnel, pas du tout par plaisir. J'ai même testé le massage indien qui s'il est renouvelé l'année prochaine, je vous le conseille fortement parce que ça détend. Vous avez un salon, une convention avec beaucoup de bruit, avec de l'agitation partout, des couloirs de la mort qui sont bloqués par des photographes. Et là, vous avez une salle avec une lumière tamisée, du son, une petite musique avec des bruits de coulis-coulis. Vous savez les petites fontaines là avec des bouddhas sous la flotte. Et là, vous avez des dames qui sont là pour vous masser les pieds, les bras, les mains, le cuir chevelu. C'est très très bien. C'est gratuit en plus.
Bref, Thomas, il était calme. Ceci dit, le couloir de la mort n'était pas tant le couloir de la mort que ça.
Ça dépendait à quelle heure.
Mais par rapport aux deux précédentes, aux deux premières éditions du TGS Wanami, cette nouvelle version semble avoir ramené pas mal de monde. Des premiers témoignages qu'on a sur les stands, en tout cas, l'organisation était plutôt intéressante puisque en fait, la partie montrage de props et tout ça, des séries télé, étaient juste à côté des acteurs, donc il y avait un début d'ambiance, c'était un peu plus regroupé sur une manière thématique.
On a vu d'ailleurs des photos sur les réseaux sociaux où il y avait des amateurs qui venaient montrer des props qui avaient habillé donc l'acteur Carmen Arganziano avec le costume de son rôle dans la série Stargate. Donc on a vu des photos où les deux étaient amusés et lui il était venu en civil du coup et il est reparti avec le costume de Stargate, c'était rigolo. D'ailleurs, on soulignera jamais assez le côté très décontracté des stars qui viennent. Parce que, par exemple, vous aviez l'acteur qui joue Bal, donc Clive Simon, qui prenait des post-clopes au soleil et qui se faisait photographier à l'envi comme ça, au dégoté par des fans qui
sachant que la consigne était de ne pas le faire puisque théoriquement c'est une source de revenus pour eux et,
non, c'est pas
et
ça.
Eux ils s'en fichaient complètement.
Non, les photos tu as le droit de les faire parce que tu ne payes pas pour les prendre en photo. Ce que tu n'as pas le droit de faire c'est d'avoir une dédicace gratuite. Et par contre ils peuvent se faire prendre en photo n'importe si vous payez pas la dédicace.
La consigne était pas de photos en dehors de la partie dédicace, c'était ça le truc.
Ah bon, d'accord, j'ai pas vu le panneau.
Mais en tout cas,
t'es sûr de ça ?
Il me semble, oui. En tout cas, moi j'ai trouvé des acteurs, en tout cas, ils semblaient vraiment fair play et vraiment proches du public. Je crois que vraiment ce que disait de ce côté-là Sébastien il y a 15 jours sur le plaisir de venir à une convention à Toulouse était vraiment partagé, en tout cas. Par ces personnes qui sont quand même des personnalités au niveau mondial.
Nous avions d'ailleurs ironisé sur la chemise à fleurs hawaïennes jaune pétard du joueur du grenier. On va dire que l'acteur David Nickle de Stargate Atlantis lui a fait concurrence. Il avait une chemise hawaïenne bleu turquoise qui était du plus bel effet. On pouvait voir que lui de loin.
Pas dimanche.
Il a pas osé.
Ah bon ?
Non, il me semble pas. Autant que j'ai pu en juger, à moins qu'il ait changé, qu'il soit changé dans le vestiaire vite fait, quoi.
D'accord. Et alors toi, donc du coup, toi tu es venu dimanche, nous étions samedi. Alors ton ressenti sur ce que tu as vu ?
Ah bah.
Est-ce que tu as essayé des animations, des jeux ? Est-ce que tu y es venu en famille ?
Bah oui, avec le petit premier. Ouais. Hein, parce que c'était surtout pour lui. Et bon bah moi ce que j'ai remarqué en fait c'est qu'il n'y avait pas trop de monde. Ça m'a paru un petit peu bizarre de voir qu'un dimanche après-midi vers 14h-15h avec le soleil au rendez-vous, eh bien il y avait si peu de monde. Bah, peut-être que à cause du soleil, eh bien les gens se sont dit bah ok, on peut peut-être faire autre chose, on peut aller voir ailleurs, dehors, plutôt que de s'enfermer dans un truc où on va crever de chaud. Et de fait, c'est assez agréable, exception faite bien entendu du tunnel de passage entre les deux salles qui est généralement bloqué. Mais enfin bon, il se bloque avec trois tondus, quatre pelés, donc c'est pas étonnant. Mais sinon, on va dire que c'est un redux du TGS normal. Je veux dire, c'est l'impression que ça m'a donné de toute façon, avec peut-être plus plus la thématique japonaise, hein, de toute façon, quoi. Et bon, sinon, c'était assez sympa, hein, c'était assez rigolo. Moi, ça m'a bien plu, de toute façon. Ce qui m'a bien plu, hein, c'est vraiment le fait qu'on puisse bien voir toute la partie documentaire, on va dire exposition de Stargate, hein, qui était vraiment très très bien foutu. Là c'était pas mal, hein, pas derrière des vitres, donc presque tu peux toucher. Bon, il faut pas parce que bon, ça se fait pas, quoi. Mais bon, c'était quand même vachement plus agréable, quoi, de toute façon.
Olivier, tu y as fait un tour, je suppose.
Oui, tout à fait.
C'était obligé.
Ah ben, bien entendu.
Et ton avis en général?
Moi j'y suis allé samedi, donc il y avait quand même beaucoup plus de monde.
mais j'ai été très très agréablement surpris de voir justement l'ambiance qui se dégageait de cet événement, où on sentait bien que les fans se faisaient énormément plaisir de rencontrer leurs stars, de découvrir certains produits. Par contre, je n'ai pas essayé le massage, je l'avoue. Et à titre personnel, moi qui suis fan de cette ambiance depuis il y a très très longtemps, j'avoue qu'à chaque fois je me retrouve dans mon côté adolescent il y a très très longtemps maintenant, et j'ai envie de crier partout, d'avoir des tas d'autographes, de rencontrer justement, de discuter avec les auteurs pour savoir un petit peu ce qu'ils envisagent de faire par la suite. Donc c'est toujours un grand moment de bonheur.
Bon, il y a très longtemps que t'as été ado, faut pas exagérer non plus, t'as pas 50 ans non plus.
Non, heureusement.
Bref, on attend la prochaine édition qui aura lieu le 1er et 2 décembre, si je me trompe.
Oui, début
mais
décembre,
ce ouais. sera au Parc des Expos avec une toute autre ambiance. Spéciale dédicace au Festival du Jeu qui a quand même eu un week-end un petit peu difficile. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Pourquoi?
Oui, parce que c'était sur 3 jours, on pouvait y aller dès vendredi soir, mais c'est vrai que dimanche il y avait le meeting de Nicolas Sarkozy
on n'a pas le droit de parler de, on parle en périphrase, à la limite on peut dire le COP de Neuilly si tu veux,
ah,
pas au-delà, mais toi tu y es allé du coup
oui, au Salon du Jeu. Alors ce qu'il y avait de bien, alors je ne sais pas si c'était le cas pour les autres éditions, parce que j'y vais à peu près chaque année, mais ça m'est pas frappé. Alors c'est peut-être aussi parce que je suis allé avec un petit aujourd'hui cette année, donc j'ai été plus particulièrement frappé par ce genre de choses. C'est qu'il y avait tout un coin et non négligeable de jeux pour les plus jeunes, pour les plus petits d'ailleurs. Quand je dis plus petit, c'est 4 ans.
Oui.
Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait du Capla géant. Alors le Capla, c'est des petites languettes de bois où tu peux faire des tours. Et là, au lieu d'acheter.
Ah, pas que des tours.
Oui, voilà. Bon, surtout des trucs que tu peux casser après.
Oui, c'est ça.
Et alors, c'est vrai que quand tu as un Capla chez toi, tu peux faire des petits trucs qui étaient sur une table. Là, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes de jeux ensemble. Donc, tu pouvais faire facilement des objets qui pouvaient faire 2 fois la taille des gamins. Donc là, c'était très rigolo. Tu as aussi des jeux, bon, avec des cartes très, très costauds et tout pour les petits. Mais c'est vraiment, il y avait un grand nombre de tables avec beaucoup de jeux. Où tu pouvais venir en famille, tu pouvais autant jouer avec les parents, avec leurs gamins, etc. Tu avais beaucoup de types de jeux, des jeux toujours en bêta test, avec possibilité de rencontrer les auteurs. Tu avais des jeux de tout type, hein, des puissance 4, des jeux de cartes, des jeux d'échecs. Tu avais des tournois, des pas tournois. Enfin, tu pouvais vraiment, il y avait pour tout type de public. Donc c'est toujours ça d'intéressant. Hein.
Bref, maintenant vous savez pourquoi samedi dernier, pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, il y avait la recette des fraises au sabayon à la place, mais c'était aussi pour vous mettre en appétit. Donc voilà, on entame les news du supplément week-end. J'ai complètement zappé, mais il faut dire aussi qu'il est sorti mercredi de la semaine précédente un numéro spécial du journal de Spirou, Il faut sauver la France. Ils avaient fait un numéro Il faut sauver la Belgique en juillet dernier, et ils ont fait la même chose sur la France. Mais alors évidemment, comme c'était les Belges qui donner leur regard critique sur la France, c'était assez amusant. Bercovici qui avait fait une couverture avec une Marianne secourue par le SAMU social, c'était quand même assez sévère. Et rien que l'histoire, je vais dire, des partis politiques revus par certains auteurs était franchement assez hilarant, et à voir, c'était assez sympathique. Là, c'est le psychopathe. C'est qui pardu? Non, parce que là j'enchaîne sur lui là quand même. Penses-tu? Bon, d'accord, ok. Non, voilà, on est en direct.
Sport, hein, il fait le chef derrière la vitre. Là, à la place du réalisateur.
Bref, tout ça pour vous dire que dans le psychopathe numéro 242, donc c'est le numéro mensuel, évidemment il y a un dossier spécial élection. Il y a la chronique de Noël Godin. Et si on étranglait un perroquet, où il parle du bouquin de Gustave Kervern, connu parce qu'il est de Groland, où en fait, il raconte les bonnes muflées, les histoires en fait de beuverie, petit moment d'ivresse, c'est le nom donc de son bouquin, où il raconte des témoignages en fait de moments alcoolisés de stars, par exemple. Lio qui dit « C'est du Rembrandt, le vin. Qu'est-ce qu'on se fait chier avec les musées ? Là, l'art rentre en bouche tout de suite. » Lio, déjà, qu'est-ce qu'elle faisait avant de faire la musique? Jean-Pierre Mocky, la plus grosse cuite, c'est avec Mickey Rourke au Calvados face au George V. Il me dit, allez, viens, on va aux chiottes, on se fout à poil et on ressort. Alors on l'a fait, mais on enlève tous les deux que le pantalon et le slip. On revient dans le restaurant, on continue à boire. L'autre jour, le garçon m'a rendu mon pantalon et mon slip. C'est deux stars sacrées du cinéma qui se bourrent la gueule, c'est pas triste. Deux autres stars sacrées du cinéma, et je vais terminer là-dessus. Gérard Depardieu qui raconte que Jean Carmé et lui ont sorti du Vivarois, avenue Victor Hugo, je précise à Paris. Le chef nous a fait des choses délicieuses au Porto de 1890. Ah oui, c'est les artistes. Et là, je monte sur ma Yamaha bleue, Jean monte derrière moi, j'enlève la béquille. Et on s'écrase tous les deux avec la moto couchée. On s'est endormi là pendant une bonne heure.
D'accord.
Ok.
Pourquoi c'est pas surprenant?
Pourquoi c'est pas surprenant? Ceci dit, c'est une spéciale prison, qui bien évidemment est illustrée par Laetitia Corentin, par donc tous les dessinateurs FM 66, tous les dessinateurs en fait de du psychopathe. Et parmi les insolites d'Alain Godec, et ben moi j'ai retenu l'une des évasions les plus spectaculaires qui a eu lieu il y a 10 ans, où en fait un terroriste a eu la visite de son frère au parloir, et le détenu en a profité de leur forte ressemblance pour se substituer à son frère. Et le présumé terroriste est ainsi ressorti par la grande porte pendant que son frère n'avoua que 4 jours plus tard à l'administration qu'il n'était pas le vrai détenu. C'était pas n'importe où, c'était en France, c'était il y a 10 ans, et c'était à la prison d'arrêt de grands terroristes, donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Psychopathe numéro 242, 4,90€ en kiosque, dossier spécial prison. Et du sport va nous parler de crime de rue. Du sport. Ah, appelé au parloir, nom de Dieu. Parce que oui, du sport a un bouquin, et croyez-moi, on a pourtant un programme extrêmement chargé aujourd'hui. Dus, donc tu vas nous parler de homicide.
Homicide, ouais,
série.
La série, mais d'abord le bouquin. C'est-à-dire que la série a une base, à savoir un bouquin. Un bouquin qui a été écrit par David Simon. David Simon qu'on connaît mieux pour The Wire. Hein. C'est vraiment la série qui l'a fait un petit peu décoller. Alors que la série Homicide qui est sortie avant aurait mérité plus de considération, surtout sur nos écrans. Mais enfin, ça j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai encore certainement pas mal de fois. Alors le bouquin, eh bien il faut dire que David Simon, lui, au départ est journaliste à Baltimore, une ville 6 dans le Maryland, et qui d'ailleurs doit son nom, eh bien, à Lord Baltimore, qui était un des membres irlandais de la Chambre des Lords, et qui était le gouverneur du Maryland dans les années 1600-1700. Et Baltimore est né en 1729. Il y a d'ailleurs pas mal de personnages célèbres qui sont nés à Baltimore. Le saviez-vous? David Hasselhoff, Edward Norton, Dashiell Hammett, Jeff Koons, Bukowski, David Byrne de Talking Heads, Cab Calloway, Philip Glass, Tom Clancy, Billy Holiday, Barry Levinson. Barry Levinson qui est le réalisateur, qui est le metteur en image, on va dire, de la série Homicide, dont il signe le pilote, hein, comme Scorsese, Bourne, Empire. Enfin, maintenant, c'est devenu la norme. Edgar Allan Poe. On a également Rico Kazek des Cars, Jada Pinkett, Oprah Winfrey, Babe Ruth, Frank Zappa. Et pour terminer, dans la note qui est plus notre note à nous, Bernie Wrightson. Vous savez bien sûr qui est Bernie Wrightson.
Non, pas du tout.
C'est
non,
un dessinateur plutôt dans le style, on va dire, les vampires à l'art, des trucs comme ça. Tu vois, un petit peu des comics horrifiques américains. Ok. De la bonne époque.
C'est fou le nombre de gens qui sont nés à Baltimore.
D'accord, je me suis limité au truc. Le bouquin, eh bien, David Simon, pendant un an exactement, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année 86-87, bien, va suivre les flics, va être, on va dire, embedded. À l'époque, l'expression n'existait pas trop, on va dire, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a un statut officiel qu'il a négocié auparavant avec les flics. Il est à l'intérieur, il peut aller sur toutes les enquêtes, il peut aller dans tous les endroits où vont les flics de la brigade des homicides. Et donc il va suivre l'ensemble de ces détectives. Alors le bouquin est très technique au départ, dans toutes les parties, parce que il explique vraiment très très bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire bon bah comment sont réparties les différentes équipes, les histoires de supériorité, infériorité, c'est-à-dire les différents grades des flics, comment est-ce qu'ils travaillent, c'est-à-dire bon bah et en fait ils font des 3-8 hein, à savoir que font ils vont faire 3 semaines sur le tiers jour, c'est-à-dire de 8h du mat jusqu'à 4h de l'après-midi. Ensuite, il y a un deuxième tiers qui va de 4h de l'après-midi jusqu'à minuit. Et ensuite, il y a le minuit 8h. Et donc, ils travaillent en alternance sur ces différents trucs. Bon, ben ça, c'est pour leur fréquence de travail. On a tous les détails en ce qui concerne les enquêtes. C'est-à-dire que, bon, ben, il va y avoir des enquêtes qui sont relativement vite torchées, tranquilles. Alors, on explique bien, il y a des chiffres à l'appui que... dans la ville de Baltimore, par exemple, eh bien, pour les homicides, il faut dire qu'il y a tous les 3 jours 2 homicides. Donc, vous calculez un petit peu sur une année, ça fait quand même pas mal. Ça fait plus de 200 homicides donc à résoudre sur une année pour l'ensemble de la brigade des homicides. Ils ne sont que 36 au total hein, pour l'ensemble de l'année. Ça... Bon, voilà, ça remet un petit peu les choses en perspective. Hein, ce genre de chiffres, il y en a plein d'autres qui sont donnés. Mais je ne vais pas trop aller dans le détail. Et donc 90% de ces homicides sont le fait de black contre un autre black. Ça aussi c'est une réalité qui existe. Il faut dire que la ville de Baltimore est aussi très très colorée dans les ça a commencé dans les années 60-70 hein, et bon ben ceci explique aussi un petit peu cela. Et bon, il y a plein d'autres phénomènes sociologiques qui peuvent l'expliquer, on va pas rentrer dans les détails.
C'est une ville, en plus si on est dans les années 80, c'est une ville qui était en plein dans le contre-coup du chômage et
tout à fait oui, oui,
et de la désindustrialisation.
Oui, il parle de 12 à 15% de chômeurs. Enfin bon, bah ça c'est plus ou moins les chiffres, on va dire officiels, hein, parce que comment il y a plein d'autres trucs. Alors bon, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, on peut le lire comme un polar. Enfin bon, la répétition des affaires rondement menées, que ce soit par un détective, il travaille toujours. Par couple pour aller sur les enquêtes, pour avoir deux paires d'yeux en fait pour regarder, mais il y a toujours un inspecteur qui est en charge du dossier. Alors il y a aussi ce fameux tableau hein, qu'on voit et qui est un des éléments principaux d'ailleurs très récurrent dans la série Homicide, le tableau sur lequel sont marquées les enquêtes, le nom des victimes et tout, et selon que c'est en rouge ou en noir, eh ben on sait que l'affaire a été close ou l'affaire est toujours en suspens. Donc ça aussi c'est un bon truc qu'on a dans le bouquin et qui suit justement hein, qui permet un petit peu de repérer ceux qui en font le plus, ceux qui en font le moins. Alors bon, bah, il s'attache, comme il est à l'intérieur, David Simon, il arrive à s'attacher vraiment avec tous les inspecteurs, à voir un petit peu quelle est leur personnalité, leur caractère, comment ils s'entendent entre eux, comment ils se balancent des vacheries et tout. Après, il détaille très très bien le fait du rapport de l'homme par rapport à la mort, parce que ce sont des gens qui, toute la journée pratiquement, jour après jour, eh bien, tout ce qu'ils font, bah, c'est arriver sur des trucs absolument trash, dégueulasses et tout. Bon, d'autres qui sont des crimes stupides et tout, il rentre bien dans le détail des différents catégorisations. Bon, il a dû choisir, je pense, il n'y a pas l'ensemble des crimes qui ont été commis, il fait l'impasse sur d'autres, sur pas mal d'affaires, ça bien entendu, mais il y a quand même une grosse unité pour qu'on se mette bien dans la tête, eh bien qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi. Hein, vraiment du très très sordide et tout quand il s'agit de petits enfants. Enfin bon, je vais passer les détails, il est midi, parce que bon, c'est vraiment très très trash à certains niveaux hein, et même les détectives les plus endurcis, ceux qui ont 20 25 ans de boîte et qui savent plus ou moins, qui ont déjà vu pas mal de trucs, bah ne peuvent jamais rester insensibles à certains cas de figure hein. Il y a un cas de figure qui est un fil rouge dans le livre, parce que il commence très très tôt dans l'année, c'est le cas d'une jeune fille qui est retrouvée morte, elle a 11 ans, et puis bon, ok, elle a pas fait qu'être morte, on va dire, il s'est passé plein de choses avant, enfin, les gens imaginent quand ils retrouvent le corps, et ça va être un petit peu le fil rouge, hein, ce cas de cette jeune fille pendant tout le temps, suivi par un détective qui va laisser pisser un petit peu toutes les autres affaires courantes pour se consacrer sur ce truc, cette espèce de némésis, enfin, pas exactement une némésis, mais enfin, cette histoire qui le hante et qui va le travailler travailler jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, eh bien, il va y avoir pratiquement le jour de Noël. Ouais, je crois que c'est le jour de Noël ou le lendemain, le 25, l'interrogation finale de son principal suspect qu'il a déjà interrogé plusieurs fois. Il lui a fait passer un détecteur de mensonges qui a foiré, enfin pour le mec. Il y a plein de détails qui sont concordants et tout, mais le type reste de bois et tout. Enfin bon, et donc les gens n'y arrivent pas. Parce qu'ils expliquent également comment se passent les interrogatoires, quel est le meilleur moment pour faire parler un suspect, les différentes techniques employées. Et là, bon bah ok, on se dit que bon bah on a déjà vu ça certainement quelque part lors de trucs télé ou même au cinéma. Mais là, ok, bon, c'est vraiment pour de vrai. Il n'y a pas de.
Et c'est quand alors le meilleur moment pour interroger un suspect?
Alors disons que il dit que de toute façon quoi, le suspect s'il a pas parlé au bout de 5-6 heures, de toute façon quoi, c'est pas la peine. Même ce qu'il va dire et tout quoi. Pourra être sujet à caution devant le tribunal et tout. Il insiste bien aussi sur la partie judiciaire, c'est-à-dire qu'il explique bien comment ça va se passer. Alors il fournit un chiffre, il dit bon bah sur 200 cas, sur 200 homicides et sur par exemple sur 200 types qui sont envoyés comme étant convaincus coupables, on va dire par les flics devant un tribunal, qui vont passer en jugement, donc ils passent d'abord devant un grand jury qui détermine si l'affaire va jusqu'à un procès. Ensuite, sur ces 200 mecs, il y en a plein qui vont faire le plea bargain, c'est-à-dire qu'ils vont plaider coupable au départ, quoi, pour avoir une petite réduction de peine. Il y en a plein d'autres, qui vont jusqu'au procès. Donc il donne bien les chiffres et donc on arrive à un total de environ 30% seulement de types qui au départ les flics en sont convaincus, c'est eux les coupables et tout, ils ont mérité d'avoir une bonne peine et tout pour ce qu'ils ont fait, et ils vont s'en tirer avec 2-3 ans de prison tranquille et tout quoi, qui seront réduits à 2 ans, 1 an et demi par les remises de peine et tout ça quoi. Donc on se dit ah ouais bon, il y a quand même des trucs qui déconnent et tout, mais d'un autre côté David Simon fait le pendant, c'est-à-dire le côté flic mais également le côté oui, the people, c'est-à-dire ce qui est marqué dans la constitution, et qui dit bien, ok, quoi, bon, il y a des droits à défendre, et ces droits, ils sont régis par un code, par plein de choses, par le jury. Alors quand il parle du jury, alors là, t'es mort de rire, parce que bon, tu te dis, le jury, on voit des jurys à la télé et tout, donc on se dit ouais, c'est des gens qui sont vachement attentifs. Quand tu les vois dans un tribunal, dans les séries, ils sont toujours vachement attentifs, comme ça ils suivent les trucs, ils suivent les déplacements. Alors que David Simon, dès le départ, il dit ok, de toute façon les jurys, laissez tomber quoi, ça existe plus comme ceux de 12 hommes en colère, c'est terminé. Maintenant ils prennent des mecs qui sont là ou des gens qui en ont rien à foutre. La première des choses à laquelle ils pensent et tout quoi, c'est quand est-ce que ça va se terminer, qu'ils puissent rentrer chez eux. Alors ils parlent légèrement un petit peu quoi de la sélection des jurys et tout quoi, de certains jurés que t'as pas intérêt à prendre et que tu prends de toute façon pas parce qu'il peut y avoir collusion ou conflit d'intérêt. On est en plein dedans quoi, il y a pas de problème. Et il y a aussi, on est également en plein dedans dans des trucs un petit peu trash, dans The Autopsy Room par exemple, dans la morgue. Il raconte l'instant où même les détectives qui ont vu plus de 50, 100 autopsies et tout, ont quand même, à un moment donné, une espèce de haut-le-cœur et tout. Alors bon, généralement, les premières fois et tout, quoi, bon, les mecs, ils vont gerber un bon coup et tout. Et puis bon, après, quoi, c'est le moment où il faut extraire le cerveau du crâne. Et là, la technique employée, je veux dire, se passe de commentaires également à midi parce que ça le fait pas trop. D'accord, je vous le raconterai juste après. Off the wire, comme on dit.
T'attendras que je sois parti du local.
Non, mais ça va quoi. Disons que pour les habitués de films d'horreur, ça peut passer, on va dire. Donc un bouquin extrêmement complet et tout, et qui malgré son épaisseur et son nombre de pages, plus de 600 pages, se lit vraiment. Vraiment très très bien du début jusqu'à la fin. Alors c'est pas de l'écriture clinique où on fait que de la description documentaire, il y a également quelques petites envolées lyriques comme ça qui sont pas dégueulasses du tout. David Simon est quand même quelqu'un qui sait relativement bien écrire, il n'y a pas de problème. Et il faut signaler que les trucs, les descriptions qu'il fait les descriptions, les inclusions un petit peu de, dans la vie un petit peu privée des détectives, on va dire, tout cela, ça a été approuvé par les personnes qui sont citées dans ce bouquin. C'est-à-dire que il avait signé à tout le monde, à tous les gens qui sont décrits dans ce bouquin, l'ensemble du bâtiment de police de Baltimore,
une autorisation de citation, quoi,
pour qu'il puisse apporter peut-être des changements par rapport à ce qui est écrit dans le bouquin. Il leur a tous filé le manuscrit avant publication pour qu'ils puissent soit te dire ça tu peux pas le mettre, désolé, écoute, non, ça le fait pas et tout, ou ça tu pourrais modifier et tout, mais sinon tous les personnages, tous les noms sont absolument vrais dans le bouquin. C'est vraiment un bouquin documentaire et qui donne après une série qui a cartonné vraiment pas mal aux États-Unis. Faut dire qu'il y a un super succès d'estime, qui n'a duré que 7 saisons plus un téléfilm final, mais dans lequel il y a rien à dire. C'est pratiquement une des séries des années 90 au niveau police procédurale qui a renouvelé le genre. Une série dans laquelle je te cite que certains artistes invités, des guest stars, et j'ai pas pris tous les guest stars. Alors à noter quand même qu'il y a un lieutenant, un chef de section du bouquin, c'est-à-dire un vrai détective de la police de Baltimore et tout, qui va devenir dans la série, un lieutenant qui va jouer son propre rôle, on va dire, mais sous un autre nom, pendant 3 saisons de Homicide, la série. Et on y retrouve également Steve Buscemi, Bruce Campbell, Vincent D'Onofrio. Alors Vincent D'Onofrio, c'est un épisode qui est vachement fameux parce que c'est un épisode où il se retrouve, quelqu'un le pousse dans le métro et il se retrouve coincé entre la rame et le bord. Et si tu veux, il se rend compte au fur et à mesure que le tronc est en face du quai, mais il se rend compte que le bas du corps, a fait un tour complet. Et donc, le mec est en train de mourir.
D'accord.
Et toute l'enquête, c'est les détectives qui sont autour de lui et qui vont essayer de lui parler et de transmettre des informations à d'autres détectives qui vont faire l'enquête un petit peu ailleurs, qui vont un petit peu ratisser le quartier pour voir quel est le mec qui l'a poussé, pour quelles raisons et tout. Et tout l'épisode est basé sur ce truc-là.
D'accord.
Et un épisode test pour Vincent D'Onofrio qui lui a permis après d'intégrer la franchise Law and Order. Parce que il y avait également une collusion, on va dire, entre guillemets, entre Law and Order et Homicide, vu qu'il y a 3 crossovers qui sont faits entre une série et l'autre, où on voit Lenny Briscoe et je sais plus qui, et Chris Knott, me semble-t-il, dans Homicide, et puis après on voit des détectives d'Homicide dans la série Law and Order, on a vu également pas mal de crossover. On sait que Munch, l'inspecteur Munch de la série New York Unité Spéciale, au départ est flic dans Homicide, et dans Homicide à un moment donné il dit je crois que je me barre, je vais me faire muter à New York et tout, et en fait effectivement il se fait muter à New York, mais pour aller dans la franchise Law and Order, où il apparaît en disant je viens de Baltimore.
D'accord.
Vraiment, c'est vachement bien foutu. Il y a également Catherine Herb, Eddie Falco, Peter Gallagher, Louis Guzman, Jake Gyllenhaal, Neil Patrick Harris, James Earl Jones, Terry Kinney, Christopher Meloni, Terry O'Quinn, David Morse, Juliana Margulies, J.K. Simmons, Robin Williams. On peut dire que
oui,
c'est une série qui a vu passer du beau monde, il n'y a pas de problème. Et pour en terminer sur David Simon, c'est également l'auteur donc de The Wire, mais il a également signé l'adaptation du livre, c'est pas un bouquin de lui, de Génération Overkill, la série qu'on avait vu, qui avait fait une saison sur la guerre en Irak, et il est également producteur exécutif de la série Trem, la série qui se passe post-Katrina à la Nouvelle-Orléans. Et il est également, il y en a une que j'oublie à chaque fois, il est également l'auteur avec Charles Dutton et Edward Burns de la mini-série qui a obtenu plusieurs récompenses, plusieurs Emmy, qui s'appelle The Corner, et qui est en fait le pendant de Homicide. Homicide, ça raconte les flics qui sont d'un côté, donc du côté de la justice qui essaye de résoudre des crimes et tout. Et The Corner, ça raconte l'autre chose, ce que les flics, quand ils font leur ronde, ils voient, quoi. C'est-à-dire des coins où t'as des jeunes qui sont amassés, deal de drogue, supermarché de la drogue, 24 heures sur 24 et tout, avec le rabatteur, le mec qui va chercher la dope, le mec qui ramasse le fric et tout ça, quoi. Et donc, ça raconte le quotidien de plusieurs jeunes et moins jeunes qui vivent sur ce corner, à savoir dans ce coin qui est le coin le plus dégueulasse de Baltimore, où, il y a que dalle, il y a que des jeunes John Kigland qui dit de la dope et tout, et de temps en temps quelques bien, bref, pour l'instant, bah, on peut dire que David Simon il fait un sans faute et tout. Alors, j'ai pas trouvé la version française de ce bouquin, je sais même pas si elle existe, hein, donc essayez de consulter.
Tu veux dire que tu l'as lu en anglais?
Ah bah oui, bah écoute, désolé.
Désolé. Okay, d'accord.
Non, désolé. Il est midi 31 sur Radio Éphémère du sport, vient de confesser à Thomas qu'il a lu le pavé, puisque quand même il a bien 600 pages vu d'œil.
Ouais, un peu plus de 600 pages. Bon, j'ai pas terminé parce qu'après il y a un épilogue et puis il y a des notes qui ont été rajoutées parce que ça c'est la version poche qui est sortie en 2009. Le livre est sorti en 91. Et
c'est un format poche.
Ouais, et le livre est sorti en 91 donc, et donc à la fin il y a un commentaire qui a été rajouté après, lors de l'édition de poche, la première en 2002 je crois, et ça c'est une réédition de 2009.
On va réécouter le générique puisque je l'ai passé tout à l'heure en fond sonore, vous l'avez pas entendu.
Alors vite fait, faut quand même ajouter que
l'orchestration est très tribale.
Ouais. Vite fait, faut quand même ajouter que l'un des principaux scénaristes de la série, c'est quand même Tom Fontana.
Ah.
Et qui a créé Oz après.
Oui.
En 10 ans, j'ai fait une série sur les flics et tout, et maintenant je vais faire une série sur les mecs que les flics ont enfermés. Donc ça c'est devenu Oz.
Et après je vais faire une série sur les psychopathes de.
Ouais.
chez les Rital, qui s'appelle ouais. Les Borgia.
Thomas.
Oui, eh ben écoute.
Littérature.
On va parler de littérature. Non, c'est pas encore, c'est après.
D'accord.
On va parler de littérature avec des images. Il sera également question de truands. Alors, je sors l'album pour mes confrères. Alors, celui qui veut.
J'ai entrevu puisque en fait il a déjà chroniqué sur Actua BD.
Alors j'ai chroniqué le tome 1 sur cette antenne qui s'appelle Blue Estate et c'est le tome 2 c'est un collectif dont l'initiateur et le dessinateur principal est Victor Kalvachev, c'est lui qui dessine les superbes couvertures et c'est chez Ankama Édition dans le label All Steel Holster. Alors ça commence par une série d'affirmations avec un petit questionnaire en fait, où il y a une série d'affirmations toutes plus hallucinantes les unes que les autres, et le titre de la rubrique ça s'appelle « Qu'aurait fait David Hasselhoff ?». Alors par exemple vous avez « Votre boss n'arrête pas de vous enfiler comme un maillot de bain de secouriste, que ferait David Hasselhoff ?». Voilà, c'est un petit questionnaire qui casse pas des briques, qui complètement tu te dis « qu'est-ce que ça fout là ?», mais c'est juste pour planter le décor pour dire « bon voilà ». Il y a des références à la pop culture, à des séries de merde et tout, mais on s'en fout, on assume. Donc, ça assume le côté méga référencé. Alors, c'est un cocktail pas du tout prise de tête, l'album, enfin la série, vaguement cool de ce qu'est sur les coulisses en dehors d'Hollywood. C'est-à-dire, c'est que des petites frappes, des malfrats, des voitures qui abritent des cadavres dans les coffres, des nanas qui sont des femmes vénales et qui vont duper leurs petites amies qui sont aussi des bras droits de gros caïds. Bon voilà, on va dire que c'est pas une série qui brille par les multiples degrés de lecture, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une série où tu vas te dire ah je vais la relire et tout, non, c'est une série qui assume complètement le côté pas décérébré mais série B à fond. Donc série B, c'est-à-dire tu le vois, tu te marres un bon coup, tu peux même très trépider devant les aventures et puis ça va s'arrêter là. Donc voilà, si vous aimez voilà les films de Steven Seagal, les Hollywood Nights, les références à quand Tarantino fait référence à l'industrie hollywoodienne avec des actrices ratées qui sont un peu en train de fumer toute la journée, affalées sur un canapé en semi-lock. Voilà, c'est un peu la même chose. Vous avez des superbes décors avec des piscines, des femmes qui sont en maillot de bain, des mafieux qui se font torturer avec des pinces. Bon voilà, c'est pas on peut le mettre devant tous les yeux. Enfin, évidemment, il faut pas avoir 5 ans, mais après c'est pas super violent, c'est pas gore, c'est pas, il n'y a pas de sexe, C'est une série très très légère, voilà, avec des truands, voilà, si vous aimez pas vous prendre la tête, voilà, Blue Estate, qui bénéficie évidemment de superbes couvertures. Il y a quelques auteurs de comics qui sont dedans, donc je vais les citer, c'est Victor Kalvachev, Toby Cypress, Paul Mayberry, Nathan Fox et Marley Zarkon. Alors si Kalvachev et Fox vous disent quelque chose, ce sont des auteurs qui étaient déjà aux manettes de l'un des albums de la série DMZ. Donc dans un autre registre,
oui,
mais
tout à fait
dans le
un autre, tout à fait un autre registre. Ouais.
Voilà, donc c'est une série pas prise de tête avec un air vaguement cool qui s'appelle Blue Estate, et pour l'instant 2 tomes parus dans le label Losty Loster dans Kama Edition, une série initiée par Victor Kalvachev.
Un deuxième bouquin peut-être.
Alors oui, je dis le titre, il faut que je dise le titre d'abord. Donc il s'agit de la série Doggy Bags tome 2, et c'est un collectif toujours chez Ankama Edition, cette fois-ci sur le label 619.
Elwood and the 40 Freak Beaches, dessiné par Kiran sur un scénario d'Ozanam, met en scène un bouseux solitaire parti en croisade contre une armée d'aliens nymphomanes décidés à se faire féconder par les humains. Ça, c'est Alien Sex Girl, mon gars. Corey Sevier, si tu nous écoutes. Aidé de son compère Joe Bill et une bonne pioche défoncée à la main, notre illuminé à la casquette ne va pas faire dans le sentiment pour neutraliser de l'allumeuse. The Border. Le scénario est de Ron, illustré et ancré par Guillaume Singelin et colorisé par Ron Imusho, nous propose de suivre une opération mortelle menée par 3 bad guys racistes à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à la chasse aux immigrés clandestins Wetback. La traque de ces sales types Wetback, au profil provoquant presque la nausée, va se trouver malmenée par l'irruption d'un surnaturel qui fait mal. Vol Express 666, un autre segment écrit par Run, mais cette fois-ci mis en image par Mathieu Bablet. Le pilote d'avion de ligne Auburn Calloway est la cible d'un massacre au marteau par ses trois collègues dans la cabine de pilotage. Qu'a-t-il bu bien se passer pour que ces hommes, d'habitude si maîtres de leur nerf, se prennent d'envie de redécorer leur cabine d'un goût que n'aurait pas renié Dexter?
Tu pourrais exploser de rire, mais là il repasse l'affiche donc à Thomas.
Voilà le deuxième tome de la série référencée Doggy Bags, donc c'est un hommage à au pulp et au BD d'horreur des années 50, mais aussi donc au film Grindhouse des années 70, hein, avec des nanas dénudées
et Alien Sex Girl.
Et Alien Sex Girl, alors c'est marrant parce que Run ne s'était pas caché non plus, il avait repris une histoire qui avait fait l'objet d'un film de série B aussi dans le premier tome. Donc cette fois-ci, bon, vous l'avez deviné, c'est un collectif avec des auteurs d'Ankama, de la maison en interne, donc avec des qui sont déjà auteurs d'autres albums que j'avais déjà chroniqué ici. Bon, Mathieu Bablet par exemple, c'est celui qui avait fait La Belle Mort, avec où on avait pu voir son exceptionnel sens du cadrage et son sens du décor, avec un décor très très urbain. C'est
avec les insectes.
Ouais. Voilà, Guillaume Saint-Gelin, c'est celui qui avait fait The Grosserie. Voilà, donc voilà, déjà dans le tome, dans le label 69. Bon, Run on le présente plus, hein, Mutafukaz, également le duo Kiran Ozanam, une BD que j'avais pas chroniqué qui s'appelle We Are The Night, qui était un polar nocturne qui se passait à Lyon il me semble. Alors voilà, Doggy Bags, bon, on vous a tout dit, donc c'est suspense, frisson et horreur dans une violence sans garantie 100% graphique. Vous avez également des petits bonus, donc c'est
il y a les petites vignettes et tout qui font vignettes d'époque, tu sais, petite annonce dans les journaux.
Voilà, des petites annonces à découper. Pourquoi tu veux plus de Doggy Bags à la maison, avec une illustration de la Holy Bible à côté. Après, t'as des.
Ouais, c'est toujours les jeux de maquettage qui sont toujours faits pour cette collection.
Oui, voilà. Le 69 et les Mutafuka, c'est pareil. Tu as aussi un poster qui est dedans. Alors, le poster, je vous le déplie. Voilà.
C'est
ah ouais,
Forty Frequencies avec du sein en pagaille, voilà, toujours dans un graphisme de vieux posters déchirés avec la texture de papier par dessus. Alors juste de loin comme ça, quand je vous dis vol 666, vol express 666, donc il se redécore les cabinets au marteau, donc là on peut voir vraiment que ça tâche, hein.
Oui, effectivement.
Voilà,
il y en a
de loin, il y en a un peu partout. Donc les trois, quand on dit BD à sketch, donc évidemment chaque sketch met en valeur les autres. Alors le premier, on va dire, c'est plutôt c'est du prétexte pour avoir la nana dénudée. Voilà, le deuxième, c'est Singelin avec Run. Donc on a vraiment du bon, ça tâche aussi. Hein, je vous montre de loin aussi avec vraiment les trois bad guys dont tu as parlé du sport. Bon, ça c'est tu espères juste une chose, c'est qu'ils vont crever parce que c'est vraiment du gros raciste. Voilà, en gros paquet. Et donc le dernier, évidemment, mise en scène par Mathieu Bablé, qui va à travers les pérégrinations de ses pilotes nous proposer des pleines planches avec des caméras embarquées sur l'avion, des décors complètement de fou et tout. C'est vrai que le sens du décor de ce type là fait merveille chez ce jeune auteur. C'est parfaitement saisissant. Et voilà, bon, on va pas bouder notre plaisir parce que les doggy bags, ça reste toujours d'excellentes factures, avec toujours ce soin du bel objet dans ce label là. On a également les détournements du I Want You de l'oncle Sam. L'oncle là, il est en version zombie. Avec c'est un appel, parce que Doggy Bags recrute pour, si vous êtes dessinateur de BD, vous pouvez envoyer vos projets pour être édité dans le prochain tome. Donc voilà, si vous aimez bien ce côté très référencé avec ces soins des beaux objets, il y a plein de couvertures qui ont été faites exprès, qui sont reléguées dans un petit espace dans un coin. Donc voilà, Doggy Bags tome 2, c'est un collectif, voilà, dans le label 619 d'Ankama qui vient de sortir. Voilà.
Allez, Run Down, Beastie Boys.
Flowing on the flow, master of disaster. When the sound is gone, take a little shout out. my dad and mom. Yeah. For bringing me into this world. It's yeah. Born, I pick and root down.
Il y a un micro qui a été raccroché.
Ah bon ?
Dans les Beastie Boys.
Ah bah oui, oui.
Et oui, c'était hier, et voilà. Donc, il y a un petit peu de Beastie Boys que vous allez entendre dans le fond sonore, dont certains extraits de la compilation The In Sound From Way Out. Mais là, de suite, c'était Root Down, version Free Zone, du single, en fait. Root Down, forcément. Thomas, nom de Dieu ! Mais qui c'est qui a cassé partout, tout partout ?
Eh ben oui, pourquoi j'ai voulu détruire ce monde ? C'est une autobiographie qu'aurait très bien pu écrire Bruce Banner. Donc c'est à Bicargo qu'on doit cet album.
Je la sens venir cette transition là.
Ouais,
un album qu'on doit à Bicargo, le scénariste et le dessinateur, et c'est toujours chez Ankama. Dans un futur pas si éloigné, les humains ont pris possession de l'espace et ont construit des ports appelés Thor, des atolls où les hommes vivent en harmonie dans le respect des autres. Mais parfois, le besoin de renouer avec leurs origines pousse les touristes à entreprendre des pèlerinages sur la planète mère, la Terre. C'est le cas de Deirdre. Une jeune touriste qui a consenti à beaucoup de sacrifices pour s'offrir le luxe d'un voyage sur Terre. Ce sera l'occasion pour elle de rencontrer enfin Carl, un terrien avec qui elle entretient une relation à distance. Mais une fois sur la planète bleue, Deirdre va vite déchanter, loin de l'image idyllique qu'en ont les touristes. La Terre se révèle surtout un beau ramassis d'emmerdes en tout genre. Alors voilà pourquoi j'ai voulu détruire ce monde par Bicargo. Alors le style Bicargo, on l'avait découvert sur le tome 0 de Mutafukas, qui était un album rétro-futuriste qui racontait le début de l'invasion des extraterrestres au temps de Hitler, puisqu'ils avaient investi le corps du fourreur. Alors, le style clairement de Bicargo, on aime ou on déteste. Je vais vous montrer les pages. C'est du rétro-futuriste anguleux et très 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 tramé, avec parfois un festival de couleurs primaires. Ça flash. On dirait que c'est une BD qu'on lit sur un Minitel. Alors je passe à Xavier.
Merci. Par contre, ce que j'ai vu en intro, effectivement, c'est qu'il y a une reprise en fait de la plaque qu'il y a sur les sondes Apollo. Sur les Voyager, pardon, excusez-moi. Oui, effectivement, oui, il y a du tramé, il y a des couleurs effectivement qui, mais elles sont pas complètement pétards. Hein.
Non, sur certaines planches c'est très 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 pétard et la majorité c'est dans les tons bruns, des couleurs très des tons
un
rompus.
Petit peu délavé, ouais. Un petit peu ou assombri, un petit peu, je veux dire passé.
Voilà, comme c'est très passé. C'est un album qui est passé, qui est comme si c'était un vieil album de BD, mais pas totalement, parce que ça a un côté très photoshopé également. C'est pas dénué d'un certain charme, mais c'est clair que soit on aime, soit on déteste. On peut pas faire la tiédasse. On peut pas si vous le feuilletez chez un libraire, soit vous allez dire ah ben vraiment c'est pas du mainstream, qu'est-ce que c'est que cette BD, je vais l'acheter. Soit vous allez passer à côté, vous allez dire non, ça c'est clair, c'est pas pour moi. Mais si je mets 15€ dans un album, c'est pas pour me taper les planches comme ça.
Moi c'est clair que je vais craquer, mais après mon goût est complètement subjectif, parce que je suis capable de m'extasier même sur une BD hongkongaise ou un truc underground qui vient d'Afrique du Nord, ça me gêne absolument pas, mais il y a un univers vraiment qui est décrit et il me parle, quoi, ça c'est clair.
Il faut aimer le rétro-futuriste, la vieille SF, et quand je dis vieille SF, c'est pas au niveau que graphique, mais également cette vieille science-fiction des années 40-50 qui, sous couvert d'utiliser des vaisseaux spatiaux, des villes futuristes, en fait ça parlait surtout de notre société, puisque là à travers le pèlerinage de Deirdre sur notre planète, en fait elle va découvrir la paperasse administrative, elle va voir comment sont traités les gens, parce qu'en plus elle vient d'une station spatiale qui est où c'est l'harmonie la plus totale, les gens sont zen, etc. Ils parlent que de terraformation, où c'est tout le monde qui pousse dans un même sens. Et là c'est vrai que la Terre qui est décrite ici, même s'il y a un petit côté SF, c'est notre société à nous, ça c'est clair. Donc elle va arriver, bon tu vois venir à gros à des centaines de kilomètres avant hein, le propos du de la BD ou c'est la Candide, hein, c'est la Candide de Voltaire, c'est c'est les bouquins de Huxley, c'est
oui exactement, voilà, je pensais à l'âge d'or de la science-fiction parce que ce que tu parles, effectivement, je pensais à Huxley, mais je pensais aussi un petit peu au monde des noix et tout ça, hein, ce que tu décris, c'est-à-dire des gens qui ont un autre mode de pensée par rapport au monde originel. Donc en fait, ce vers quoi la science-fiction veut aller au terme philosophique et ce qu'est réellement en fait la société.
Voilà, c'est exactement la vieille SF telle qu'on peut le lire dans les bouquins quand tu es étudiant.
Stupendous.
Ouais, alors donc voilà, c'est pour ça que ça a quand même un certain charme au niveau à la fois graphique et aussi au niveau du scénario. C'est un one shot, donc vous savez que vous n'allez pas avoir à vous taper plein de tomes avec ce style graphique là. Ce qu'il y a de bien, c'est que Bicargo, il a un style qui n'appartient qu'à lui. Dès les premières planches, on voit que c'est lui qui dessine. Donc c'est un album, même la couverture, elle est pas vraiment tape à l'œil. C'est une typo Bauhaus qui est en énorme, avec le petit personnage qui est en tout petit juste en dessous. Donc voilà, c'est.
Il y a un travail sur les typos, effectivement, oui. Sur un peu les ce qu'on appelle les typos datés, effectivement. Oui. Donc c'est vrai, ce qui contribue énormément sur le rétrofuturisme.
Voilà. J'ai publié cet article sur le site actuabd.com. Il y a déjà eu un commentaire négatif qui disait oh là là, les ordi, qu'est-ce que c'est moche quand c'est mal utilisé. Donc voilà.
OK, d'accord.
Voilà, donc ça s'appelle Pourquoi j'ai voulu détruire ce monde. C'est un one shot écrit et dessiné par Bicargo et c'est édité chez Ankama Édition.
Vous écoutez le Supplément Week-end numéro 315. Il est oula, il est 12h52 minutes déjà. Punaise. Et en plus, on va être
peur.
On se fait peur, mais oui, ben c'est que voulez-vous. Donc je vais entamer de suite sur Ratman, qui est une nouvelle série qui sort chez Kana. Le tome 1 et le tome 2 donc ont déjà été traduits chez Kana, dessinés par Shikiki Inui, et c'est une histoire de super-héros. Je crois que je prépare la transition là.
Ah pardon.
Ah oui, les super-héros, ces personnes au pouvoir extraordinaire qui peuvent rendre la justice, défendre la veuve et l'orphelin. Évidemment qu'ils fascinent les jeunes. Leur charisme, leur fougue, leur courage, leurs biscottos et leurs photos dans toutes les pubs. Et comme tous les lycéens de son âge, Shoto adule ces hommes par-dessus les hommes et rêve d'en avoir le destin. Alors le problème, c'est que bon, ok, il est un peu petit par sa taille. S'il est en seconde, la plupart des gens croient qu'il est en quatrième. Bref, pas franchement le physique d'un super-héros, ben non. Mais sa petite taille ne doit pas être un frein pour son ambition et son envie de conquérir le monde.
Oh, stop. Elle dit pas de politique. Stop.
Alors quoi, je vois pas décrire une personne de. Ah, pardon, excusez-moi. Bon. Bref, heureusement, un jour, Shoto deviendra lui aussi un super-héros. La belle Mirea, seule fille de la classe à lui parler, alors qu'elle est très timide, a été kidnappée par des immondes hommes de main d'une obscure organisation criminelle. Mais Shoto a l'opportunité de la sauver grâce à un recrutement express, devenir un super-héros. Bon, le souci, c'est qu'il faut signer un contrat d'embauche, et dans ce genre de situation, on n'a pas le temps de lire les petites lignes ou d'appeler un avocat conseil. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'avec le décalage horaire, Matt Murdock va forcément décrocher. Shoto, donc, peut lui aussi avoir le charisme, la fougue, le courage, les biscottos pour aller sauver sa dulcinée, et ceci grâce à une montre qui modifie son corps, lui donnant des capacités physiques extraordinaire. Sauf que l'autre côté du décor, bah, il ira de surprise en déconvenu. La première d'entre elles étant que les super-héros sont en général sous contrat avec des entreprises. Bah oui, vous doutez bien que telles avancées scientifiques, on n'en trouve pas le financement dans le premier nid à chauve-souris venu. Hein, bah, et... Bref, donc lui aussi pourrait bien avoir sa photo dans ses pubs, et s'il n'y avait que ça. Ensuite, que les dix super-héros sont quand même pas mal égotiques. Hein. À côté, Arthur, il est modeste. Et qu'enfin, il n'y a pas trop intérêt à ce que Mirea lui refasse le coup de la demoiselle en détresse, comme la première princesse Zelda venue. Bref, la série est parodique du genre, assez marrante. C'est un peu dans le style de ce qu'a fait dans les années 90 Masakazu Katsura, l'auteur de His, après qu'il ait terminé Video Girl Eye. Mais on imagine qu'on ira tout droit vers les produits dérivés habituels, qu'on reste quand même assez rigolard après avoir lu un chapitre. Néanmoins, ne manquez surtout pas la planche d'ouverture en couleur du tome 2, cela donne le ton. Et surtout, je n'ai pas tout dit sur le bouquin, c'est fait exprès. Ratman, tome 1 et 2 de Shinkiki Inui, c'est chez Kana. Ça détend, c'est un moment, je vais dire, assez agréable à lire, qui évidemment sauve sans problème à des collégiens qui aussi parlent de la différence et tout cela.
Oui, surtout que quand tu dis super-héros, les gens ils pensent super-héros américain, mais là c'est il a vraiment le costume de Super Sentai. Hein.
Ah oui oui, pur et dur, mais c'est voilà. Un petit peu voulu parce que depuis une heure, il y a des espèces de connards dans une cinéma de quartier à Paris qui ont eu droit au cinquième épisode des France 5 et j'en suis dégoûté. Mais c'est vrai que c'est super-héros de ce sens-là, effectivement Super Sentai, mais de toute façon, c'est assumé hein, ils ont pas mis la traduction pour que ça soit générique, pour que ça soit une portée, je veux dire justement sur l'imagerie en général des super-héros.
Bon d'accord, je viens de voir la planche couleur du tome 2, d'accord, j'ai compris le type d'humour. Okay.
Voilà, ça rassure tout le monde, tout ça, bon. Du sport qui fait... Allez, on voit, oui, c'est clair, ça, on voit des masses, il n'y a aucun problème.
Non mais là, je suis en train de faire le contrôle parental.
Contrôle parental pour voir s'il y a de... C'est ouais.
Des non, formes, non, effectivement, on voit des formes, mais ça reste, je vais dire, bon, le décolleté reste bon. Un petit Allez. Peu protégé de ce côté-là, c'est. Il n'y a pas de souci. Il est super tard, il est 57, donc on a juste le temps de passer le générique avant que j'envoie le top sonore. Donc on y va, 3 à 4, allez hop, tout le monde à l'unisson. La chronique du film Chorale vous est présentée de manière chorale par l'équipe du supplément Weekend en Dolby Surround 2D. Oui, parce alors, qu'on n'a pas osé en 3D.
Alors aujourd'hui, nous allons parler du film 1, 2, 3
The Avengers, Avengers.
Vers l'infini et l'au-delà. Qu'est-ce que c'est que ce truc de moine Shaolin qu'il y a derrière?
Je savais pas quoi mettre.
D'accord, ok. Alors attention.
J'aurais pu mettre du ACDC, je sais pas, ou du Black Sabbath.
Oui.
Alors, ouais, là, c'est vrai que l'arrivée, elle est.
Alors, on va parler du casting et du. On va dénoncer le réalisateur et tout. Alors, énoncer. Un film de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel Leroy Jackson, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Gwyneth Paltrow et Harry Dean Stanton. Qui fait d'ailleurs un caméo dedans.
Ouais, juste un caméo. Hein.
Voilà, qui... tu te dis, tiens, s'il est là, ça veut dire qu'on... Hein? Ah non, ben non.
Non.
Pas encore. Pas trop vite. Hein.
Alors, Loki, le dieu nordique du mensonge et de la discorde, s'empare d'un cube cosmique détenu par le shield de Nick Fury, comme il est dit dans le film Fury.
Ouais, Fury.
Il n'est pas du tout chanteur dans les...
Non.
Afin d'offrir le monde à une puissance obscure. Cela tombe bien, Fury profite de l'occasion pour monter l'équipe des Vengeurs composée de Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, la Veuve Noire et œil de Faucon. Ces super-héros ne seront pas de trop pour lutter contre la menace extraterrestre. Enfin, il faudra qu'ils réussissent à s'entendre avant. Alors, Avengers, le mastodonte, premier des trois mastodontes que nous avions décompté, dont nous attendions la sortie pour cet été, puisque c'est avec The Dark Knight Rises et Prometheus. Donc, Avengers, qui avait une grosse campagne promo, qui n'était autre que les films eux-mêmes, les films de la franchise.
Oui, en fait, on a payé pour voir les bandes annonces.
On avait payé pour voir les bandes annonces et depuis 2008, c'était la date de sortie du premier Iron Man de Jon Favreau. C'était donc sous l'initiative du producteur Kevin Feige de Marvel, qui avait dit nous notre arme absolue, notre arme de destruction massive, c'est la franchise Avengers. Donc on va vous balancer plein de films en l'honneur comme ça pour préparer la franchise Avengers. Une campagne de films, de sortie de films qui a eu quand même quelques couacs. Bon, pas eu beaucoup, il y a quand même eu des couacs sur le plan de la cohérence. Alors déjà, il y avait les deux Hulk qui avaient pour de multiples raisons chacun pas correspondu franchement trop à la franchise Avengers, puisque le premier Hulk de Ang Lee n'était pas dénué de qualité, il était vraiment très considéré par beaucoup, mais assez tard.
C'est pas
le... bon, comme un bon film.
Personne n'avait compris que c'était pas le Hulk mainstream, mais c'était le Hulk justement des mini-séries qui sortent en général dans la collection Vertigo.
Voilà, donc c'était Ang Lee qui s'était emparé de la franchise Hulk avec un Eric Bana qui était, ma foi, très très bien en Bruce Banner. Un Hulk qui faisait parfois très cartoon avec un vert très très vert. Mais on voyait que Ang Lee il livrait pas vraiment une préparation pour la saga Avenger. Donc dans le 2 ils ont fait un reboot avec, on oublie tout ce qui s'est passé dans le 1, c'était The Incredible Hulk avec Edward Norton, réalisé par le français Louis Leterrier qui nous avait fait les transporteurs avant. Donc il faut dire que le film c'était pas vraiment un ratage mais pas une réussite non plus,
non.
Et qui était vraiment oubliable, hein. Edward Norton en Banner ça l'avait pas fait, mais ça l'avait pas fait à 100% non plus. Donc en plus avec ce combat contre Abomination qui était Eli Roth, Tim Roth, pardon, Eli Roth c'est le réalisateur. Bon, voilà, franchement oubliable, même si ça s'écrivait très officiellement dans cette préparation des Avengers, puisqu'il y avait la fameuse séquence post-générique avec Tony Stark qui arrivait devant le général Ross et qui disait on est en train de préparer un gros truc à côté, ce serait bien que vous nous livriez les études que vous avez faites sur monsieur, je pète mon slip. Donc vous avez l'habitude apparemment vous acquiescez sur mon approche de ce Hulk avec Edward Norton. L'autre incohérence, c'était, on n'en avait déjà parlé, c'était Chris Evans, le choix de Chris Evans qui avait déjà incarné la Torche dans les Fantastiques et qui se retrouvait dans le costume de Captain America qui est loin de démériter, qui fait très très bien son job, mais pourquoi prendre un acteur qui a déjà incarné un autre personnage d'une autre série de Marvel, même si ça se passe dans une terre alternative et que on n'est pas prêt de réavoir des nouvelles des 4 Fantastiques vu les ratages
successifs
publics et artistiques de ces deux épisodes. Donc voilà. Donc
oui, je peux en profiter hein, pour casser. Hein, faut pas hésiter.
Non mais pas de souci pour l'instant. Voilà.
Enfin, un travail
ça
critique. Défoule,
hein, si tu veux
un travail critique,
aussi.
C'est on démonte. Non, pardon, je déconne.
Donc nous avons désormais notre film choral de super-héros qui, après deux épisodes d'Iron Man, notre Captain America, notre Thor et notre Incredible Hulk. Et nous avons donc ce film Avenger qui est réalisé par un des dieux des geeks, hein, Joss Whedon, n'ayons pas peur de le dire, puisque c'était le gars quand même de Buffy, Angel et Firefly.
Tout à fait.
Voilà, donc qui était quand même, qui faisait un peu l'unanimité autour de lui et qui était quand même habitué à faire à orchestrer des œuvres collégiales avec beaucoup de personnages, non sans avoir la science de manipuler aussi l'humour second degré en pleine baston, en plein affrontement apocalyptique. Donc il avait quand même le bagou et le passif derrière lui. Alors dans ce film choral de super-héros, c'est pas moins de 8 personnages principaux, donc 8 trames, en comptant également Loki, et l'agent Phil Coulson qui est aussi là pour bon, c'est pas un super-héros mais il est quand même présent. Donc c'est vrai que 8 personnages principaux, tu te dis tu es en train de te faire un listing de réalisateurs qui se seraient vraiment cassé les dents dessus. Il s'en sort ma foi avec panache. Alors un équivalent, on avait bien sûr les X-Men dans une autre série de Marvel, au niveau collégial, hein, voilà. Mmh. On avait dans un autre genre les Mystery Men.
Oui.
Non mais ça reste du super-héros, hein, je suis désolé.
Voilà, si vous voyez, si vous
enfin,
avez en tête
du justicier.
Voilà, si vous avez en tête d'autres séries comme ça, par les Quatre Fantastiques, c'était 4, mais bon, ça on va passer outre. Ce film n'existe pas. Non, ça pas d'autres séries qui vous viennent en tête.
Non, les Indestructibles.
Oui.
Oui.
Les Indestructibles de Pixar.
Mais après, c'est vrai que. Là, j'ai pas idée. Hein. C'est comme quoi faire un film choral avec des gens qui explosent à l'écran et en avoir plusieurs à la fois à gérer.
Ah, mais les Power Rangers, bien sûr.
Merci du sport. Alors, vos impressions générales, on va faire dans l'ordre. Donc, on va considérer que c'est pour l'instant, c'est la quintessence du film de super-héros.
C'est de la grande surprise.
Voilà, d'un point de vue spectaculaire, on va dire qu'il y a un côté, bon, pour prendre juste le côté merchandising, un peu impression générale, donc on en a pour notre argent, c'est vraiment le film qui affiche clairement, vous attendiez ça, on vous le donne. Voilà, c'est pour tous les fans qui avaient lu les comics avant, qui s'étaient visualisés ce que pouvaient donner en live ces super-héros qui ont tous leur franchise de leur côté. On peut dire qu'on n'est pas déçu, puisque pour chaque personnage, c'est exactement ce qu'on espérait, voire pour certains même mieux.
Et pour une fois qu'on a ce qu'on attend en tant que grand public, c'est une très très bonne surprise. Moi, je me souviendrai toujours de, par exemple, la franchise de Punisher, où ils ont décidé de partir, mais complètement à côté de l'esprit du comics.
Oui, tout à fait. Donc, qui a eu plusieurs interprètes. Hein. Qui a eu Lundgren, qui a eu
Thomas Jane.
Et le gars de Rome, Ray Stevenson.
Yes. Voilà.
Donc, voilà, c'est ce côté. Vous faisiez une idée en lisant les comics, on l'a fait en live. Donc, ça, c'est de cette façon-là, c'est une réussite. On pourra regretter, tant qu'on est aux qualités défauts, quelques lenteurs, surtout au niveau de la grande scène d'exposition sur le porte-avions, on va dire.
Oui, c'est vraiment la seule critique qu'on peut faire.
Voilà. D'ailleurs, si vous avez trouvé de votre côté des incohérences scénaristiques, nous vous renvoyons avec un certain plaisir vers la chronique sur le net du blog de Nos Deux Connards, dans une chronique qui est presque aussi longue que le film, défonce le scénario du film en pointant mais du doigt toutes les incohérences du scénario.
Oui, ceci dit, contrairement à la chronique habituelle, on sent bien qu'il a quand même beaucoup apprécié le film parce qu'il est beaucoup moins acerbe.
Tu as relativement peu de trucs sur lesquels il peut attaquer, il le reconnaît, puisqu'en fait c'est quelques incohérences mais sans aller au-delà. C'est vrai que par rapport aux autres films de super-héros, les autres films avaient beaucoup plus d'incohérences que ça, tandis que là l'univers est relativement maîtrisé.
Oui, mais d'ailleurs quand on voit par exemple sur son site la chronique qu'il a fait sur la colère des titans, donc le deuxième épisode qui était sorti, on sent bien que là le film lui a donné les nerfs et les moyens de s'exprimer et d'argumenter, tandis que sur The Avenger, effectivement il pointe des incohérences scénaristiques parce qu'il y en a partout et qu'effectivement le scénario n'est pas parfait. Ceci dit, et je pense que ça sent clairement, il a vraiment apprécié le film.
Voilà, après, comparer ça avec la colère des titans, je ne pense pas que ça apporte du grain à moudre aux fans.
Par contre, ce qui est surprenant, c'est les phrases, l'écriture des dialogues et, enfin voilà, quoi, les répliques fusent et elles font mouche à chaque fois. Là-dessus, on est vraiment surpris parce qu'en général, on s'attarde pas sur les phrases. On met le truc, fait rire un petit peu, etc. Tandis que là, c'est des phrases qui sont référencées. Certaines font allusion soit à ce qu'il y a vraiment dans les bouquins, soit à d'autres films, des trucs comme ça. Josh Whedon est un geek et quelqu'un qui aime faire des œuvres qui ont besoin d'être vues plus d'une fois, et là il s'est fait plaisir. On sent bien qu'on a envie de revoir le film après, soit parce qu'on était mort de rire et on n'a pas eu le temps de voir quelque chose sur la scène, soit parce que tout simplement il y a des phrases qu'après coup on va revoir différemment après le visionnage, et ça fait vraiment plaisir. De ce côté là il a vraiment fait un spectacle qui est un spectacle prévu pour une analyse. C'est flagrant.
Et c'est là que apparaît déjà tout le talent de Whedon, notamment déjà dans l'écriture, puisque les vannes qui sortent, tu as l'impression, tu le vois écrit, tu dis ça va jamais passer parce que c'est trop too much, et ça passe.
Totalement.
Et c'est là que tu vois aussi que le gars, il est aussi plombé dans l'imaginaire collectif des non-fans de Buffy comme le gars qui aura fait des très très bonnes séries d'ados, mais des séries d'ados. Et là, tu vois que déjà, Buffy, c'était pas qu'une série d'ados, même si c'est adressé à un prioritaire public, et que le gars, il est pas juste un faiseur de trucs de vampires ou des trucs un peu décérébrés. C'est juste un auteur à part entière. Tu lui mets n'importe quelle franchise dans les mains, il va t'en faire de l'or. Donc c'est là aussi que tu vois le talent d'écriture de Whedon.
D'écriture et de mise en scène, combat.
La mise en scène, pour l'instant, ce qu'on pouvait reprocher à Whedon sur les séries sur lesquelles il avait travaillé, c'était que c'était un excellent conteur et créateur de personnages, mais pas forcément peut-être un bon réalisateur de baston. Là, ici, même si tu devines franchement que Whedon, vu l'ampleur de la scène d'affrontement dantesque collégial à la fin, il a pas forcément peut-être été l'initiateur de tous les choix de scènes, de montage, etc. Parce que c'est un travail colossal. C'est un mec, il faut rappeler, qui n'a jamais réalisé de long métrage avant. Donc,
il avait fait.
Il avait fait Serenity. Voilà, pardon. Voilà.
C'est pas rien.
Oui, ça restait quand même un petit film de science-fiction, même si
il n'avait pas eu un grand budget, puisque en fait c'est les fans qui avaient fait pression pour c'est l'un des premiers exemples un petit peu de crowdfunding justement auprès des majors. Mais c'est oui, vrai qu'on l'avait pas vu sur ce type de projet.
Et puis Serenity, frappé aussi par le côté un peu ovni de ce film, par les personnages bien sûr, par le ton, par le scénario, mais peut-être pas par les scènes d'action non plus, même s'il y en avait certaines. Quand tu te repenses à Serenity, je ne sais pas si tout le monde l'a vu ici, tu ne repenses pas aux scènes d'action. Tu te visualises à peu près ce qui se passe, mais tu vas pas dire, putain, quelle scène dantesque ici.
La scène du bar, elle est. Oui, elle est. Il y a une chorégraphie derrière qui est
oui,
bien.
Oui, mais c'est parce que.
Parce qu'elle fait partie d'un élément. La scène n'est pas gratuite en plus. Il y a
gratuite.
Quelque chose qui se passe pendant ce temps-là.
Oui, tout est justifié, mais t'as aussi Summer Glow qui est aussi une ancienne danseuse.
Voilà. Ça.
Ensuite, tu as la structure du film dans la catégorie. Alors, la structure fait que le film s'apparente plutôt à des films, on va dire, à pur moment de cinéma. C'est-à-dire pas un film où tu vois une progression dans le scénario et tout. Tu vois, c'est un film, selon moi, qui est clairement calibré pour offrir trois scènes dantesques. Qui est à peu près évidemment l'affrontement final. Tu as la baston sur le porte-avions, qui est aussi une scène en soi, qui est le film s'orchestre sur ces quelques scènes clés. Et également je vais pas spoiler puisque ça se déroule bien au début du film, c'est la double scène de capture de Loki qui se déroule à la fois en Allemagne et dans la forêt ensuite. Donc tu as ces trois grandes scènes et tout. Le reste, on peut considérer que ce n'est que de l'exposition. C'est les personnages se rencontrent au début, le cube disparaît, un truc tombe du ciel, bon voilà. Mais c'est vrai que c'est un film orchestré un peu comme le Mission Impossible de Palma, où t'as la scène en apesanteur, le TGV, bon voilà. Quand tu repenseras au film dans 5 ans, tu repenseras à New York, à quelques scènes comme ça. Ce film fait partie de cette catégorie de films. Ensuite, à l'instar de beaucoup de franchises de super-héros, et c'est ça qu'on peut toujours rétorquer aux détracteurs de ce film, parce qu'il commence à en avoir quelques-uns un peu à droite à gauche, pas beaucoup, mais il y a certains qui disent oui, c'est pas vraiment un film de geek, parce que bon, souvenez-vous, les films de super-héros, tout le monde crie au génie avec cette scène finale de Avengers, mais souvenez-vous, il y avait déjà les films de Del Toro avec les Blade, il y avait aussi d'autres films qui
pareil, Blade et The Avengers, c'est quand même très osé de mon point de vue.
Oui, voilà, c'est pas pareil, mais en matière d'affrontement de super-héros, c'est vrai que il faut quand même se méfier des raccourcis. Certains disent on n'a jamais vu des affrontements de super-héros de ce calibre-là. Alors peut-être en ambition, peut-être pas, mais c'est vrai qu'au niveau technique, quand deux personnages se faisaient face, on a eu aussi en qualité de la qualité qui se rapprochait de ça. Là où évidemment, on le disait depuis tout à l'heure, Whedon réussit un pari fou, c'est que c'est une mêlée.
Je pense que dans 5 ans, quand on sera parlé de ce film, c'est vraiment la bataille finale où chaque héros a son moment d'exposition, où on se fait plaisir, parce qu'effectivement, l'art de Whedon, pour moi, c'est d'arriver à te faire rire alors que la scène est quand même relativement grave ou relativement prise dans le suspense. Et justement, il y a ce décalage énorme qui permet de rebondir en fait dans l'action et de faire une transition sur ce qui se passe à côté.
Alors c'est vrai qu'en début on disait aussi qu'il y avait tout à l'heure on disait ça, qu'il y avait des incohérences au niveau scénario. Par exemple, il y a des personnages qui vont être oubliés à un moment donné, qui vont réapparaître et tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont foutu avant. Alors c'est un peu le côté négatif, mais ce sont des codes à accepter. C'est le code de la scène d'arts martiaux du seul contre tous. Si vous vous souvenez bien, dans les scènes d'arts martiaux, t'as toujours un mec qui va combattre 100 ninjas, et si tu observes bien image par image, tu vas voir que les ninjas, pour donner l'impression qu'ils vont se jeter sur lui, ils vont tous attendre leur tour et ils vont commencer à faire des gestes dans le vide. Bon, c'est un code à accepter, c'est-à-dire que le gars qui est pas fan d'un film d'arts martiaux, il va dire c'est n'importe quoi, les gars qui sautent pas dessus, et ben ils balancent dans le vide. Bon, c'est un code. Là évidemment,
mais s'ils sont plusieurs à lui sauter dessus, ils risquent de se blesser mutuellement aussi.
Voilà. Là par exemple, on a certains personnages qu'on ne nommera pas, qu'on ne voit pas pendant une grosse partie du film, parce que bon, Odio Connard le disait, il se lime les ongles. Bon, oui. C'est vrai qu'à un moment donné, le scénario veut que ce personnage n'en a pas besoin pendant 10 minutes.
Mais faut dire que avoir autant de tort et
tu l'as dit.
Pardon. J'allais dire, c'est la pièce centrale de The Avengers. Autant d'habitude, il est dans une autre catégorie, parce que Thor, c'est le défendeur de la planète Terre, donc contre des menaces galactiques. Il n'a pas l'habitude d'intervenir, j'allais dire, sur du local, style défendre une ville.
Sur du local. Ok. Alors, après Thor, maintenant que tu le mentionnes, on va peut-être pouvoir s'attarder sur tous les personnages. C'est vrai que là où le film est une réussite, c'est-à-dire que le film que tu attendais est réussi, et le film que tu n'attendais pas est réussi aussi. C'est-à-dire que tu t'attendais à voir du Tony Stark, donc le Tony Stark, il est égal à lui-même par rapport aux deux premiers films. C'est-à-dire que tu l'as aimé, tu l'aimes aussi ici.
Mais pas trop.
Voilà.
L'écueil dans lequel on pouvait tomber justement à propos de Tony Stark, c'est qu'il y ait un trop et donc qu'il prenne trop de place par rapport aux autres personnages.
Et en fait, non, il a sa retenue.
Non, non, enfin,
il prend quand même un petit peu de place.
C'est bien dosé.
Il a de l'humour sur
lui-même.
Non,
c'est bien dosé, je trouve, de
ce
côté-là.
Oui, c'est bien dosé parce que malgré tout, c'est quand même son côté friqué en fait aussi un côté paternaliste pour la bande. Même si tu sens qu'il y a une antinomie qui va certainement être développée dans le 2 entre Captain America, qui est le leader naturel, qui est le. La cohérence, la caution militaire du groupe, et Iron Man qui est plutôt la caution charisme et fric.
Donc c'est exactement pour faire le parallèle avec X-Men entre Cyclope et Wolverine. Il y en a un qui est un leader naturel, qui a les stratégies et tout, et il y a le rebelle qui est là pour se faire plaisir, pour ramener l'action.
Sauf que dans le duo Cyclope-Wolverine dans le film, c'est vrai qu'il était un peu tailladé par le fait que selon moi, ils avaient pris un mauvais acteur pour incarner Cyclope, ou alors ils ont pas réussi à le rendre aussi bien que dans la BD, parce que là tout le monde dans la franchise X-Men, les gens ils se souviendront de qui,
de
Wolverine, voilà. Alors que là, on se souvient des deux. La franchise Avengers, c'est une réflexion qu'on se faisait ensemble, puisqu'on est allé voir le film ensemble quand on est allé le voir. C'est vrai que les personnages que tu voyais dans les films seuls, tu n'es pas surpris. Si vous les aviez aimés dans les films seuls, vous les avez tels quels. Si vous les aviez pas aimés dans le film seul, ils vont pas remettre la foi. Hein. C'est-à-dire que Thor, il était aussi intéressant dans Asgard que inintéressant sur Terre, c'est pareil ici.
Non, c'est un chiant, c'est un con, c'est un bourrin, puis voilà quoi, c'est tout quoi.
Voilà.
Il s'améliore au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire qu'il apprend quoi. C'est ça qui est aussi intéressant. Hein. Il développe petit à petit. Et de ce côté-là, c'est pas mal, c'est bien utilisé justement dans les Avengers.
Et selon moi, quand même, Thor n'est là que pour être le frère de Loki.
Tout à fait, mais dans l'ailleurs, vous parlez des petits points critiques, on peut reprocher, parce que du coup, chaque personnage a un petit peu la suite de son histoire et son exposition. Thor est le seul qui, a priori, était au départ bloqué sur Asgard, et surtout, même si apparemment ça va être expliqué dans le Director's Cut qui sera sorti après, il est revenu sur Terre pour, a priori, retrouver sa fiancée, entre guillemets.
Yes.
Et là, on passe complètement à côté.
Oui.
Mais je crois qu'en même temps, c'était très difficile, effectivement, de donner les motivations de chacun vu la densité. Et le film est quand même relativement long, il fait 2h20. Il est quand même relativement long, donc ça aurait été difficile d'en rajouter plus.
2h20 en tant que film.
Mais c'est un film.
En tant que tel, mais sinon 2h20 pour un film de cette ampleur-là,
pas passer, on est surpris.
Ensuite, avant d'enchaîner sur les grandes surprises du film, on va juste dire quelques mots sur Captain America. Donc du sport, toi tu nous disais que c'était selon toi le personnage le moins intéressant. Mais selon moi, il est égal à lui-même par rapport au film aussi de Joe Johnston. C'est-à-dire que
c'est d'ailleurs le mec paumé.
Comment ?
C'est le mec paumé. Il sait pas ce qu'il
fait. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est seul. C'est-à-dire qu'il a plus de petits amis. Il a tout l'univers qu'il connaissait. Il est réduit en miettes. Il est là juste parce qu'il y a sa patrie qui a besoin de lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a plus que la patrie pour lui. C'est quelqu'un qui a juste un leadership naturel, qui a un bouclier, qui fait un. Visuellement même un peu tâche par rapport aux autres, parce qu'on est obligé de ne pas penser qu'en termes de comics mais en termes de films. C'est-à-dire que les blagues dans X-Men par exemple, tu aurais préféré une combinaison jaune et tout, là ils ont rien changé. C'est-à-dire que le mec il a une cible géante en guise de bouclier, il est en bleu, il a un casque qui est ridicule.
Oui, mais justement le film se moque aussi lui-même du personnage, parce que quand lui aperçoit son propre costume, il fait oui mais en face on pouvait en avoir un qui est un peu mieux.
Voilà, et en lieu de réplique, l'autre il dit ouais mais bon, en ces temps troublés, les gens ont besoin de nostalgie. Ah d'accord, ok, ça c'est fait, donc voilà.
Merci de m'envoyer en bleu et rouge pour la bataille.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que cette faiblesse naturelle qu'il a, enfin relative par rapport aux autres, il a quand même une force herculéenne, mais il va faire partie, on va dire, de la caste des personnages qui n'ont pas de pouvoir, presque. Ils ont quand même réussi à le rendre à son avantage, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui va commander aux flics, qui va fédérer autour de lui ce que les autres ne sont incapables de faire.
Tout
finalement
à fait.
Dans
le
groupe.
Rôle de leader, comme tu disais, oui. Très bien, mais ceci dit, si on parle de personnages qui n'ont pas de pouvoir mais qui sont quand même carrément impressionnants, pour moi c'était Hawkeye qui fait tout le début du film à lui tout seul quasiment.
Alors voilà, maintenant on va parler des surprises, on va finir par Jean Vert après. Donc Œil de Faucon et la Veuve Noire, finalement, avant de voir le film, tu te disais finalement ce sont les deux personnages légèrement introduits avant. Œil de Faucon, il a trois répliques dans le Thor, mais c'était vraiment le caméo. La Veuve Noire avait un rôle plus conséquent dans le Iron Man 2, mais on sentait qu'elle n'avait pas vraiment sa place, était mal utilisée, alors que là, franchement, dans les mains de, dans les pattes de notre réalisateur, c'est carrément notre personnage, Scarlett Johansson.
Ah, tout à fait.
Et accessoirement, on voit quand même que Whedon, à l'instar d'autres réalisateurs qui sont spécialisés dans les héroïnes, comme James Cameron, par exemple, ou Ridley Scott, on voit que Whedon, il a quand même eu un petit fail pour soit l'actrice, soit le personnage.
Il vient quand même de Buffy, il aime bien ce genre de...
Oui. Oui, ou Summer Glow dans Firefly par également. Exemple. Alors là, c'est vrai que c'est la surprise, quoi. C'est deux personnages qu'on n'attendait pas et finalement qui constituent peut-être la trame, on va dire, le fil rouge humain du film, sans considération d'éclairs, de Dieu du tonnerre ou des trucs comme ça. Là, c'est vraiment les deux pauvres gars qui sont dans le shield, qui s'épaulent l'un l'autre parce qu'ils sont les plus faibles techniquement. Et finalement, à la fin, tu aperçois que bon. Leur apport dans la scène finale est on va dire porté à bout de bras par la réalisation, mais finalement quand il réfléchit, bon,
c'est pas mal, ça rentre dedans, quoi.
Ça reste quand même une nana qui tire des balles avec des flingues et un mec qui balance des flèches à côté de Thor ou de Hulk. Voilà, beaucoup de flèches, mais quand même à côté de Thor ou Hulk, c'est les mecs, ils sont pas là. Bon, c'est moins grave s'ils sont pas là que si Thor ou Hulk sont pas là, quoi. Mais le film arrive à faire passer la pilule. C'est quand même l'un des grands moments du film qui passe bien, alors que ça avait tout pour être raté quand même.
Ben justement, moi ce que j'ai apprécié, c'est que le côté humain a été mis en valeur, ça veut dire tout au long du film, mais à la bataille finale, on voit bien que bah, ils sont quand même pas là pour ça, ni faits pour ça d'ailleurs.
Oui.
Et donc on a du mal à mettre en valeur. Mais là justement, ils ont eu quand même quelques scènes où ils rentrent bien, où on prend du plaisir à les voir. Mais pour moi, l'intrigue personnelle de ces deux personnages se fait tout au long du film parce que c'est eux qui apportent vraiment la trame, comme tu le disais si bien. Surtout Hawkeye, parce que du coup, sans spoiler, ce sera lui qui va réfléchir entre guillemets aux moyens d'embêter le plus nos héros, et il y arrive très bien. Enfin, il a aucun pouvoir, mais alors voilà, c'est lui qui gère.
Mention spéciale à certaines flèches USB qui ouais, il fallait y penser quand même avant. Ouais. Oh, on va te mettre une flèche USB pour voilà.
Mais non, mais de ce côté-là aussi, un truc qui est surprenant sur le film choral de super-héros, ce que l'on n'attend pas, c'est la montée de dialogue. Il y a une scène où ils sont en huis clos et où ça risque de tourner au vinaigre et tout est dans l'écriture là.
Et on va
incroyable.
Dire que la scène finalement où Loki est le plus impressionnant, c'est une scène où il n'est pas, où c'est quand même son pouvoir qui est à l'œuvre. Et on va pas du tout dire quel est l'enjeu de cette scène-là, mais on va dire que Loki, le dieu de la discorde, et bon, évidemment, tous ceux qui connaissent un petit peu la franchise Avengers dans les comics savent que c'est pas vraiment le calme plat entre les personnages, et c'est vrai que Loki va faire son caillou détritus d'Astérix, quoi.
Tout à fait, mais d'ailleurs tu parlais des bonnes surprises. Pour moi, Loki, le personnage de Loki tel qu'il a été scénarisé, change profondément dans Thor et dans celui-là, où il prend une envergure qu'il n'avait absolument pas dans Thor.
Oui, dans Thor, en fait, tu passes 80% du film à apparaître en mi-figue, mi-raisin, tu sais pas trop si c'est le méchant ou pas, il se révèle le méchant à la fin, alors que là, il affiche carrément le truc et c'est l'élément déclencheur, même si c'est pas le gros bad guy du film. Hein.
Non.
Voilà. Alors, on va arriver à la...
Juste avant, cherchez bien toutes les références qu'il y a. Au bout d'un moment, il y a du Ghostbuster, il y a des références évidemment aux événements de septembre 2011 à New York, mais
2001,
il y a des références 2001 pardon, mais il y a des références cinématographiques avec dispersé un petit peu partout. C'est un bonheur quand on les découvre. Et si vous les avez pas vus au premier visionnage, à mon avis, quand le DVD va sortir ou quand ça passera à la télé, vraiment vous allez vous faire plaisir à les découvrir.
On va également aborder le cas Hulk, puisque le cas Hulk est de toute façon à part, parce que c'est le troisième acteur qui endosse le costume Bruce Banner. Bon, on va dire un Eric Bana qui était quand même assez carré. Il faut pas oublier qu'il avait incarné Hector dans le film 3. Après, un Edward Norton qui était oubliable.
Oui.
Là, c'est vrai que Mark Ruffalo, moi, à chaque fois que ce gars est annoncé dans un film que je vais voir, il m'épate. Puisque ce type, on va dire qu'il ne ressemble à rien. Il a un physique qui est presque rondouillard, qui est aussi bien capable de jouer dans In the Cut de Jane Campion en tentateur d'une Meg Ryan que tu n'as jamais vu aussi sexuée, qui est quand même capable de jouer dans Zodiac.
Oui.
Et ici, d'incarner le geek, le chercheur par excellence, avec la même décontraction. Et tu te dis finalement, après ce film, ben c'est Bruce Banner.
Mais je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, je me rappelle avec émotion la scène dans le laboratoire avec Tony Stark où ils se donnent la réplique l'un à l'autre, est quand même très très bien faite, il faut le dire.
Oui, 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 parce que c'est deux chercheurs, enfin deux scientifiques qui se rencontrent et qui s'aperçoivent qu'ils sont, ils ont tout pour être les meilleurs copains du monde. Et puis c'est vrai que c'est le film aussi fonctionne sur cet équilibre savant entre les scènes de baston et les scènes où c'est, ce sont les hommes derrière les armures, derrière les pouvoirs aussi qui font le sel de ces scènes-là. Ensuite, on voit que.
Enfin, il y a une chose, il y a une vidéo qui a été publiée ce matin par le magazine Electronic Weird avec le responsable des effets spéciaux de ILM et où en fait ils demandent à l'acteur de prendre des mimiques, etc. C'est-à-dire ils arrivent avec des statues de Hulk et tout ça, donc ils ont fait qu'ils ont sculpté, etc. Ils demandent de prendre des mimiques. En fait, ils shootent. En fait, ils ont pris 3 jours de shoot en fait, hein, uniquement.
Oui, oui, mais ça c'est plutôt.
Et c'est intéressant de voir que en fait il regarde un truc, il fait OK, je te fais la même. Et c'est la même. C'est première prise, paf, d'entrée.
Il oui, est... mais ça, c'est assez. Or, déjà, c'est assez facile à faire parce qu'il n'y a pas de texte et tout. Et puis, deuxièmement, tu vois ce type de making-of sur tous les films à effets spéciaux. L'exemple le plus flagrant et le plus gros, ça a été Gollum. Ça a été Andy Serkis pour King Kong, pour les Tintins, pour. Voilà. Donc, ça, c'est assez habituel dans les making-of. Mais là où on est extrêmement surpris par le Hulk de Joss Whedon, c'est que non seulement Bruce Banner existe en tant que Bruce Banner et il aurait pu faire tout le film en Bruce Banner.
Largement, voilà. ça les valait.
C'est une performance qu'il faut saluer.
Voilà, et en tant que Hulk, t'as jamais vu Hulk comme ça. C'est-à-dire que c'est le Hulk que tu attendais depuis les comics.
C'est le Hulk des comics.
Ce que le Wolverine n'a jamais été au cinéma, également par rapport au BD, et en matière de personnages qui s'énervent. Et là, le Hulk, quand tu le vois à l'œuvre, tu te dis ah ben quand même. Voilà,
il est capable de foutre une trempe d'ailleurs à ses collègues.
Oui, t'as ça, et puis t'as aussi le fait que t'as toute la tout le groupe des Avengers qui se casse les dents sur un énorme ennemi gigantesque et puis lui en un coup de poing il te le fracasse et tu te dis et t'es même pas surpris, voilà, c'est l'Hulk que tout le monde attend. Et en matière de rendu, en matière de même de couleur verte qui a, voilà, ni entre le vert terne du Louis Leterrier ni le vert extrêmement flashy de Ang Lee, finalement tout est une réussite chez Hulk. Et évidemment Whedon, tu sens qu'il a eu aussi le faible pour ce personnage là qui constitue aussi le nerf de la guerre de ce film là.
Ben justement, moi ma scène préférée du film, du moins celle qui m'a vraiment fait le plus rire, c'est la scène où il y a Loki et Hulk, et donc je ne dirais pas ce qui se passe, mais celle là est vraiment emblématique.
On va dire surtout pour la conclusion de la scène.
Elle est très très bonne.
On va finir.
Terminer, ouais, parce que là il est quand même 13h30, donc je sais pas comment on va faire pour la suite.
pour finir, deux choses. Donc évidemment, la scène post-générique à ne pas louper. Du sport, tu t'étais planté sur l'identité du méchant, puisque ce n'est pas lui, c'est un autre. Voilà, amis auditeurs qui ne comprennent rien, vous verrez.
Ok.
Vous-même. Voilà. On va dire que c'est un personnage qui commence par T. Et un avenir qu'on estime extrêmement positif pour cette franchise-là, puisque évidemment il va y avoir les autres films consacrés à chaque personnage. On va avoir un Iron Man 3, un Captain America 2, un Thor 2. Donc on va vraiment s'éclater, puisque là c'est toujours dans les deuxièmes épisodes que les franchises, si ce sont les mêmes réalisateurs qui sont aux manettes, s'expriment pleinement. Wow. puisque dans chaque premier épisode, les réalisateurs sont obligés de à la fois planter le décor, planter les personnages et élaborer un enjeu que tout le monde estime convenu. C'est toujours dans les épisodes numéro 2 que ça commence à péter. J'avais fait une petite liste. X-Men 2, qui était bien meilleur que le 1. Spider-Man 2. Quoi, tu fais une moue?
Non, je fais un petit joker sur le
Spider-Man 2. Tu n'es pas convaincu par les qualités
supérieures? Par rapport à la réplique d'anthologie du 1, genre de grand pouvoir inspire de grandes responsabilités. Enfin, il y avait des vraies scènes, des vraies émotions, il y avait du vrai personnage. Justement, moi, personnellement, j'ai préféré le 1 ou 2.
D'accord. Moi, j'ai plus trépidé devant l'affrontement avec Alfred Molina plutôt que pour le bouffon vert.
J'ai pas dit qu'il était pas bon, j'ai juste dit que j'ai préféré le premier.
D'accord. Hellboy 2, puisqu'on voit,
oui, là,
on voit
contre,
c'est vraiment du pâté. Alors voilà, l'autre film de Del Toro, c'est Blade 2, qui était beaucoup plus assumé, même s'il y avait des côtés graphiques qui étaient vraiment un peu à part dans le film, qui choquaient un peu. Mais par rapport au 1, même si c'est pas le même réalisateur, là j'ai fait une exception, c'était Norrington dans le 1. The Dark Knight.
bien sûr. Christopher Nolan avec Batman Begins, qui a posteriori, tu vois que c'est la bande annonce de The Dark Knight. Batman Returns avec Tim Burton. Donc c'est vrai que là, à chaque fois, ils vont plus loin. Tu n'as pas besoin de présenter les personnages. L'Empire contre-attaque, bien sûr. Bon, ça c'est les autres, voilà. Mais quand on reste aux super-héros, c'est vrai que là, si Joss Whedon garde la main sur Avengers, on peut de toute façon augurer d'une réussite encore plus impressionnante dans le 2.
D'ailleurs.
Voilà, surtout que là, il pourra effectivement jouer avec les personnages, peut-être en faire disparaître certains, peut-être changer du tout au tout certains enjeux, développer des antinomies aussi.
Je pense que vu le méchant, ça va être la mise en image de Thor qui a eu, somme toute, là dans ce film, un rôle assez mineur.
Voilà. Quelque chose à ajouter ?
Rien de plus, parce que il est là.
Ok, on est pressé par
donc,
le timing.
Donc, juste une chose, allez le voir. Il est extraordinaire et c'est un grand spectacle sur grand écran.
Voilà, donc comme tous les films coraux avec des grosses scènes de baston, on pourrait citer
Transformers,
les Seigneurs des Anneaux, des films comme ça. Mais là, cette fois-ci, ce sont pas des robots. Il y a aussi Matrix Revolutions. C'est pas des robots, c'est pas des androïdes maintenant, c'est des humains qui ont certes des pouvoirs, mais c'est à visage humain. Et c'est pas, même le Seigneur des Anneaux, c'était là où ça a frappé, c'était parce que c'était massif et que chacun finalement avait un affrontement humain. Là, c'est humain, mais c'est avec des pouvoirs, donc ça c'est encore plus impressionnant. Donc voilà, Avenger de Joss Whedon, qui est sorti il y a 10 jours, 2 semaines, il me semble.
Et on n'a pas droit à la toute scène finale, puisqu'elle n'est que pour les États-Unis.
Qui est une dégustation, dégustation de fast-food, de sandwich.
Voilà, dans un fast-food qui a été, on sent que dehors ça a été le bordel, et tu as les ouvriers encore en train de nettoyer, les serveurs qui sont encore en train de nettoyer du bordel, etc. Et là ils sont là, c'est après le combat, on n'a plus rien
à dire. En costume de super-héros, c'est-à-dire que Thor avait son costume de dieu et tout, qui est attablé.
En train de bouffer le tacos, c'est génial.
Voilà, et qui est sans son et sans parole.
Et c'est là où on voit une fois de plus Joss Whedon à son meilleur.
D'ailleurs, tu parlais de films qu'on attend. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, Ultimate Spider-Man qui devrait pas tarder.
Je suis sceptique. Un reboot aussi peu de temps après deux épisodes, parce qu'on va passer le Silence sous le 3 qui était complètement raté de Sam Raimi. Je trouve moyen. Un reboot aussitôt après, je sais pas.
Il faut voir, peut-être que c'est une excuse pour se rattraper justement vis-à-vis du 3.
Ah, peut-être. On verra si les branches sont costauds. Petite note de flûte, on revient après, extrait du même single que tout à l'heure.
Moomin!
C'était bien la peine que je me fasse chier à retrouver tous mes albums des Beastie Boys si c'est juste pour passer un single. L'introduction monte très lentement. C'est une série qui est extrêmement connue au Japon depuis 35 ans et dont on n'arrête pas de remixer le thème régulièrement. Olivier, c'est à toi.
Tout à fait. Donc moi, entre autres, suite à mon expédition au TGS, j'ai eu envie de vous faire partager une sélection d'animés, donc de dessins animés au Japon. Le problème, c'est que ces animés dont je vais parler viennent de sortir au Japon, donc ne sont pas encore licenciés ni disponibles en France.
Ah, bravo.
Sauf que...
Sauf qu'ils vont l'être très rapidement, et le deuxième dont je parlerai a été licencié par Fun Animation au Canada et aux États-Unis, donc on peut supposer qu'il le sera très rapidement en France.
Mais ils sont visibles en ligne, légalement.
Tout à fait, mais intégralement en japonais, donc si on n'a pas la chance de comprendre le japonais dans le texte, ça va poser problème.
Toi, c'est le cas?
Oui.
D'accord. Ok, je pensais faire une vanne en fait. Non, d'accord.
Non, okay. Tu peux pas.
Ok, je le
donc
tente.
Tu peux dire Bakadesu et te mettre dans le coin avec
par
le monnaie.
Par contre,
monnaie, là,
comme
là.
Tu vas le voir, j'ai un accent japonais horrible. Donc, le premier que je souhaite vous faire partager, dont est inspiré ce thème remixé, c'est Lupin Sensei, connu en France comme le nom Edgar de la Cambriole, qui en fait. Donc le titre complet de l'anime, c'est Lupin Sensei Mine Fujiko Tolu Ona, ce qui en français donne la femme Mine Fujiko, tout simplement, qui donc, comme son titre l'indique, met en valeur le personnage de Mine Fujiko qu'on n'a pas eu trop l'occasion de voir ou de mettre en valeur dans les épisodes de saison. Donc en français, c'était le personnage de Magali, pour ceux qui ont regardé par exemple le Club Dorothée ou les rediffusions, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un
c'était
peu.
C'était sur la 3.
De Edgar de la Cambriole.
Ouais, Edgar de la Cambriole, c'était sur la 3. Voilà, puisque c'est la série dont on parle, et en fait, en France, ça s'appelle Edgar, tout simplement, parce que Lupin, le troisième, il y a eu un procès.
Tout à fait, voilà. Il y a eu des problèmes de droit d'auteur avec donc, le personnage dont elle est inspirée, de Maurice Leblanc, qui est le personnage d'Arsène Lupin. Mmh. Donc le nom japonais s'inspire directement, et donc comme il y a eu un problème de droit d'auteur qui s'est réglé là au début de l'année, en janvier, on l'a traduit par Edgar de la Cambriole, mais bon, je pense que tout le monde avait compris d'où était l'inspiration. Donc, pour une petite leçon rapide d'histoire, c'est donc un animé qui a été diffusé au départ de 1971 à 1985, qui a été créé par Kazuyuko Kato, qui a publié sous le pseudonyme de Monkey Punch en 1967 dans le manga Action Weekly, le premier épisode donc de Lupin Sensei, qui a été donc cette histoire de droit d'auteur avec donc la famille de Maurice Leblanc, puisque c'est lui était l'auteur était mort depuis longtemps. Et donc du coup, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui découvrent, Edgar de la Cambriole, donc c'est le gentleman cambrioleur, c'est celui qui vole plus par plaisir et par occasion, plus que par réelle volonté de voler les gens. Qui est accompagné, donc c'est un trio, il est accompagné donc par le personnage de Goemon, qui est un samouraï plutôt ronin, qui est obliqué à lui-même, et donc qui a une phrase culte en japonais qui n'ont pas été du tout rendues en français. Et le personnage d'Isidore, donc Daisuke en japonais, qui est le pistolero, donc le yakuza classique, qui se sert de son arme à feu pour régler les problèmes.
Faut quand même, je sais pas, quelle est la motivation pour traduire Daisuke par Isidore, quand même.
Demande ça au traducteur de Nicky Larson, par exemple.
Oui, oui.
Isidora, oh là là, bien envoyé.
Et donc du coup nous suivions ce trio qui est très très régulièrement en pitch, vu que c'était à peu près toujours la même construction scénaristique, et soit était employé par le personnage donc de Magali, soit était trahi à un moment donné par le personnage de Magali dans tous les épisodes.
D'accord.
Et donc on se demandait bien pourquoi il suivait encore ses conseils ou ses missions, et qui a été donc poursuivi très régulièrement par l'inspecteur Lacogne, Gaston Lacogne d'Interpol, qui était la caution morale du dessin animé, vu que c'était lui qui était chargé d'arrêter Edgar. Bien évidemment, il n'y arrivait jamais et était bien ridicule au passage. Donc ceci dit, c'était quand même dans les années 80, c'était une période où il fallait surtout pas choquer les enfants, donc aucune allusion, ne serait-ce qu'un baiser ou une relation sentimentale quelle qu'elle soit, ou une scène d'action un peu trop évoluée, c'était hors de question. C'était vraiment ce que j'appelle le monde des bisounours, où tout est beau, tout est gentil, il n'y a jamais une catastrophe, un mort, quoi qu'il arrive. Non, tout se passait très bien. Tandis que là, justement, dans cette saison, on va dire, de Lupin Sensei, c'est exactement le contraire. Déjà, c'est plus du tout la même équipe, ni la même période, il faut le dire. Et donc, c'est un animé qui est extrêmement noir, qui a un graphisme très très intéressant, parce que du coup, il joue énormément de la palette de couleurs ou de l'ambiance pour ponctuer l'action et l'histoire. Et donc, il est centré sur le personnage de Mine Fujiko, Magali, qui va rencontrer tour à tour, mais en tête à tête, donc la première fois où ils se sont rencontrés chacun des membres du trio. Et là, par contre, on sent qu'ils s'en fait plaisir, parce que du coup, c'est extrêmement sexué, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de lignes de dialogue qui pointent, voire très explicite à ce niveau-là. Et pareil, dans le côté mafieux, sordide, ou voire le côté purement vol ou cambriolage, est vraiment extrêmement bien rendu, parce que du coup, on n'a plus affaire à la censure, et donc ils ont pu se bien montrer tout ce qui se passait, et donc ça change complètement la série telle que moi, en tout cas, je l'avais découverte et regardée. Donc ça a été vraiment ma révélation, ça a été celle qui m'a le plus enthousiasmé, parce que je trouvais ça très intéressant de changer complètement, en fait, ce qui a fait le succès de la série. Le deuxième animé dont je vais vous parler, qui n'a rien à voir, puisque du coup j'ai essayé de faire un petit panel et de ne pas rester dans le même style, s'appelle Jörmungand, qui aura probablement le même titre en français, qui est donc un manga de Keitaro Takahashi, donc qui a été publié dans le Monthly Sunday de 2006 à 2012, qui vient d'être adapté en animé, mais pas par l'auteur, ce qui est assez rare, parce qu'en général il a quand même son petit mot à dire. Donc là c'est Yusuke Kuroda et Keitaro Montoga qui se sont mis aux commandes du scénario et de la réalisation. Et donc cet animé s'inspire, de mon point de vue évidemment, très très clairement de Black Lagoon. Black Lagoon qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est une référence à la matière qu'il faut absolument avoir vu lorsqu'on aime un petit peu le milieu des animés un peu noir, un peu sordide, qui raconte très rapidement en fait l'histoire de comment un comptable japonais traditionnel et classique va sombrer peu à peu dans la délinquance, la mafia, le milieu illégal et tomber de plus en plus bas. Donc c'est très noir, mais on prend réel plaisir à le regarder. Donc là, c'est un peu le même style, puisque du coup, on s'intéresse au personnage de Coco, qui est la fille d'un marchand d'armes, et qui est elle-même marchand d'armes, donc le sujet est très noir, parce que donc ils vendent la plupart du temps des armes aux dictateurs, ou dans des conflits où, on va dire, il y a beaucoup de morts, et donc on peut se poser des questions sur la légitimité de montrer ça aux enfants. En tout cas, c'est un choix qu'ils ont fait et qu'ils assument parfaitement. Qui est accompagné par 10 gardes du corps, qui sont totalement déjantés, comme le personnage de Coco, qui en même temps ont tous un côté rationnel très sympathique, parce que du coup ils ont des lignes de dialogue où on va dire le pitch de la série est l'intégration dans le groupe du personnage de Jonah, qui est le petit dernier, qui est un petit enfant qui vient d'un conflit, donc il n'a connu que la guerre, qui a une dent contre tout ce qui est armes, etc., mais qui lui-même est un guerrier héros, donc la seule chose qu'il sait, c'est assassiner des gens, et donc du coup, à force d'avoir été comme ça, il a été dépourvu totalement d'émotion, c'est un robot. On lui dit fais ça, il pose pas de questions, c'est tout, point barre. Et donc du coup, cette équipe-là va essayer de lui apprendre que non, il y a quand même autre chose dans la vie, qu'on peut prendre de...
je sens que c'est mal parti.
Non, mais en fait, ils y arrivent plutôt pas trop mal, et donc du coup, on côté professeur et modèle moral, on va dire, qu'ils n'avaient pas du tout avant l'introduction de ce personnage et qui vont donc leur donner une profondeur, mais ils ont tous aussi un côté noir, parce que quand l'action se déclenche et que donc il faut pas hésiter, on voit aussi le côté un peu fou qu'ils ont tous à prendre un pied extraordinaire, à commettre des meurtres, assassiner, se sortir de situations totalement invraisemblables. Donc voilà, cet animé, je trouvais, avait de vrais plus, parce que du coup il traite de sujets très très sérieux, tels que la vente d'armes, tels que voilà, l'éducation des enfants dans un milieu qui est quand même extrêmement hostile, qui a donc un vrai fond, des vrais sujets importants, mais qui le traite avec un humour qui est génial, parce que justement, un peu comme dans The Avengers, malgré le fait qu'il y a des scènes de tension insoutenables, il y a aussi un vrai comic relief, il y a des scènes où on se marre littéralement, et donc du coup ça passe très très bien, mais voilà. Enfin, c'est un style au niveau purement visuel, l'image en tout cas et l'animation sont très éloignées de ce qu'on appelle, bon, ce qui se fait traditionnellement donc dans les big three, style One Piece, Naruto, Bleach. Là, ils ont fait un choix qui est le choix de l'éditeur de pas justement s'en rapprocher de style gentil. Donc c'est un graphisme qui est assez, on va dire, méchant, parce que très anguleux, très pâle, très... Même graphiquement, dans les expressions, on voit que les expressions sont poussées au maximum, style on va pas avoir un sourire gentil, non, ça va être le sourire démoniaque qui monte jusqu'aux yeux. Et donc du coup, ça donne un style qui est assez non traditionnel, justement. Et donc je vous le conseille fortement, si jamais vous avez l'occasion de le regarder. Voilà, franchement, c'était
Le temps que ce soit sous-titré, il va falloir noter les références et les guetter quand ça apparaîtra, en tout cas.
On peut les trouver.
Enfin, ou alors on apprend le japonais, mais ça prend du temps.
Non, non, mais pour les sous-titres, ils sont disponibles.
D'accord.
Et donc, le dernier dont je souhaitais parler, c'est Hayaru Nyakusan, qui se traduit en anglais par The Crawling Chaos, et en français, donc ça donne très très moche, mais ça va être Le Chaos Rampant, qui a été écrit donc par Manta Isora et illustré par Koin. Donc déjà c'est rigolo, parce qu'en général le mangaka est celui qui écrit et celui qui illustre, tandis que là ils travaillent en duo. Et donc sous forme de nouvelles indépendantes qui ont été parues donc dans un magazine donc qui se manque dans l'animé, ce qui est très drôle parce que du coup il y a eu des problèmes de parution, etc.
Excellent.
Donc j'aime beaucoup. Et donc il s'inspire en fait de l'univers, pour ceux qui connaissent, de H.P. Lovecraft, qui est une référence en la matière de fantastique, dans le sens horreur du fantastique. Et donc il a créé toute une, on va dire même une mythologie, donc autour du personnage central de Cthulhu. Donc il y en a beaucoup d'autres, hein. C'est pas mon préféré personnellement, Cthulhu. Et donc
mon personnage préféré c'est le
Dagon.
Par exemple, ou Nyarlathotep, qui est assez excellent. Donc du coup, là, ils ont essayé d'en faire un truc, ce que j'appelle le Japon, l'idée bizarre, où j'imagine toujours le scénario où le gars arrive dans la boîte de prod et lui fait « Ah, ça y est, j'ai une idée. Et alors, c'est quoi ton idée ? Eh bien, je vais m'inspirer de Lovecraft. » Donc un truc d'horreur qui est quand même très, très profond, très prononcé. Et je vais en faire un shonen tout mignon, tout gentil, avec une lycéenne de type arène. Et là... Tu fais « Ah oui ?» Ok, moi perso, j'aurais été un peu surpris. Mais apparemment, il a eu le feu vert.
Un shonen ou un shoujo ?
Non, non, c'est du shonen.
Shonen,
c'est pas du
d'accord, shoujo. Avec une nana,
donc
d'accord.
C'est pour les garçons, voilà.
Okay. Voilà, c'est fait par les garçons. Donc en effet, tu suis un lycéen qui est plus ou moins pour rien, qui à qui il va arriver donc des tas d'aventures. Donc qui s'appelle Mahiro, et donc qui rencontre une lycéenne qui au départ paraît normale et qui s'appelle Nyaruko, qui en fait est un jeu de mots parce que du coup en japonais Nyarlathotep n'a pas pu être traduit littéralement, donc en fait c'est le départ de ce nom là qui s'avère être donc une extraterrestre qui vient d'une dont le nom de la race est Nyarlathotepienne.
D'accord.
Donc elle c'est et donc possède en fait tous les pouvoirs de l'entité à laquelle elle se réfère, mais à l'apparence d'une lycéenne toute mignonne, enfin toute mignonne, tout est relatif, mais en tout cas comme c'est un shonen de type harem, en général le lycéen a plein de filles qui lui tombent dessus en faisant du rien, et donc du coup en fait est une tsundere qui est le personnage classique au Japon en ce moment qui fait un carton, donc celle qui a un côté méchant style froid, je te veux pas, je vais te taper dessus, et qui en fait au fur et à mesure s'avère être relativement gentille, etc. Donc il y a le côté profond démoniaque, parce que du coup elle affronte d'autres démons qui ressort de temps en temps et qui lui fait faire des actes de sadisme incroyables, et il y a le côté tout kawaii, tout mignon, je suis une lycéenne amoureuse qui rend un petit peu, qui donc du coup la mise en abîme est assez intéressante, je trouve. Et donc voilà, donc pour info, pour les vrais fans de Lovecraft, il y a par exemple un animé qui est entièrement consacré à l'île de Riley, donc l'île mythique où est censé être Cthulhu. Il y a beaucoup de Deep One qui en fait vont rejoindre le groupe, puis, au départ sont des méchants et ensuite deviennent gentils, ce qui est un grand classique. Et donc voilà, donc je pense que là par contre, purement visuel, c'est extrêmement classique, c'est extrêmement sobre, c'est vraiment, j'allais dire, le shonen lycéen typique, avec les costumes, avec tout ce qui va, avec le héros qui en prend plein la tête, mais qui est quand même super cool parce que tout va très bien. Et donc du coup voilà, c'était mon troisième coup de cœur, qui est donc cette adaptation donc de la mythologie lovecraftienne. Et il faut évidemment, il faut aimer le style, ce que j'appelle un petit peu le n'importe quoi, illustré parfaitement par Bobobo, pour ceux qui connaissent, qui est la référence ultime dans le n'importe quoi.
Bobobo, alors ça, en français c'est ?
C'est ça.
D'accord.
Regarde le prompteur, page 4, oui, dernière.
Bobobo, d'accord.
Non, c'est Bobobo, Bobobo.
Déjà, à prononcer, c'est une catastrophe.
Ah oui, Bobobo, d'accord, ok.
Donc du coup, je le conseille vivement à tout le monde pour ceux qui s'intéressent un peu à ce style décalé. Et voilà, donc du coup, ça a été... J'ai essayé de vous faire partager en tout cas les trois coups de cœur de la nouvelle saison d'animé qui vient d'arriver en France, donc il y a un peu plus d'un mois.
Merci Olivier, sachant que de toute façon, on va de plus en plus vers la diffusion simulcast, et je sais que Dusport a complètement loupé...
Qu'est-ce qu'il a loupé ?
La nouvelle série musicale, mince, j'ai oublié.
Donc Kids on the Slope,
dont la prog musicale est un bonheur, est un vraiment des belles leçons de jazz.
La fameuse chaîne de télé
connaissant des goûts musicaux, j'ai des doutes, mais
diffusée sur une chaîne de télé française en 6 lettres sur
c'est du sport qu'à la zapette, il l'a pas.
D'accord, ok. Si, juste pour parler d'une deux nouvelles séries qui vont sortir, mais l'une va être difficilement regardable. Ah bah si, peut-être par Xavier. Ça s'appelle American Horror Story. Et ça nous vient des États-Unis sous la houlette d'un certain Ryan Murphy. Ryan Murphy,
oui.
Nip Tuck, Glee.
Non, je pourrais pas là.
Trop tard. Et là, il va adapter un petit peu. On a déjà eu des séries d'horreur comme ça, quoi, les Master of Horror, des trucs comme ça et tout, mais qui recyclaient un petit peu. Là, c'est également un petit peu du recyclage. avec comme base eh bien une famille qui va emménager dans une maison. Il va se passer des trucs bizarres dans cette maison.
Oh oui. D'accord. Alors c'est pas cette ambiance qu'il faut. Je l'ai vu la bande annonce. Elle déchire.
Les parents, il y a Dylan McDermott qu'on a vu dans The Practice, qu'on a vu dans une autre série il y a pas si longtemps de Brockheimer, dont je vous avais parlé, de Flic infiltré, où il est pas mal du tout. Justement, il casse son rôle de gentil avocat propre sur lui et tout. Enfin bon, il est pas vraiment tout le temps gentil hein, dans The Practice, mais enfin bon, il reste quand même un personnage positif, on va dire.
Le genre idéal.
Voilà, c'est ça quoi. Hein. Mais alors que dans la série de Brockheimer, Flic infiltré, là, il est des fois borderline, souvent borderline, on va dire, et pas uniquement parce que il est infiltré, donc il est obligé de le faire. Mais bon, ok. Il y a Connie Britton qu'on avait vu dans Friday Night Lights et Jessica Lange qui joue le rôle de la voisine et qui a obtenu le Golden Globe pour du meilleur second rôle pour cette série. Donc et c'est tout récent et ça marche tellement bien que il y a eu 12 épisodes de la première saison qu'une deuxième saison a été signée. Alors c'est bourré de références, c'est-à-dire que bon bah il y a les gros films d'épouvante, les gros films d'horreur qu'on connaissait, les gros classiques, l'Exorciste, Blair Witch, Paranormal Activité, du bon ou du pas bon hein, mais je veux dire des références qui sont vraiment bien prenantes, que tout le monde connaît, on va dire, même sans avoir vu le film quoi en plus. Et donc ça va être retravaillé un petit peu et redistillé comme ça dans cette American Horror Story. Alors connaissant la patte de Ryan Murphy, on peut se dire que ça peut valoir le coup quand même, ça veut jeter un coup d'œil. Bon, l'inconvénient c'est que c'est sur Ciné Plus Frisson et ça démarre ce soir à 20h40. Il y a également demain soir, alors bon ça passe très tard demain soir, c'est sur Série Club, une série inédite également américaine qui s'appelle Call Me Fitz, avec comme personnage principal, comme acteur principal qui joue le rôle de Fitz, donc Jason Priestley. Rappelez-vous.
Brandon Walsh.
Et là, qui casse carrément son son mythe, on va dire, et son personnage de Brandon, un petit peu à l'instar de David Duchovny, parce que la thématique qui ressemble.
Ouais, les séries sont comparables.
Fitz, bah c'est un vendeur de voitures qui est obsédé, qui est alcoolo et tout, qui trompe sa femme. Enfin bon, la totale quoi. Hein, et bon bah on va suivre ses déboires, donc c'est vraiment inspiré, on va dire. Bon, pas inspiré, mais enfin le fil est un petit peu le même hein, que Californication avec David Duchovny. Bon, on peut voir ce que ça va donner. C'est un petit peu dommage que ça passe si tard. C'est demain soir à partir de 23h. Après, une série canadienne police procédurale classique, mais qui est inédite également, donc qui s'appelle King, et avec Amy Price, Francis, Gabriel Hogan et Tony Nardi. Bon, enfin bon, connaissant un petit peu la patte spéciale qu'ont les Canadiens pour nous sortir des petites séries et tout quoi. On se rappelle de la série qui a inspiré Cold Case de Brockheimer, par exemple, quoi, des années avant. Hein. Bon, bah ok. Donc on peut quand même y jeter un coup d'œil. Call Me Fitz, donc c'est demain soir à partir de 23h sur Série Club. Il y a également la série 25, merci, la saison 25 de Taggart. Moi je croyais que Taggart était morte après la mort de Mark McManus.
Et moi je croyais que c'était 24 la série.
Non, 25, saison 25 donc de Taggart. Alors Mark McManus il est mort, bon, dans la vraie vie, mais également en tant que personnage de Taggart, puisque c'était lui, hein, détective Taggart. Mais par contre, la série lui a survécu. Ça se passe à Glasgow, en Écosse, avec ben là dans les rôles principaux, Bliss Duff, John Michie et Colin McCready. Donc et 4 épisodes ce soir sur Jimmy, avec Drame passionnel qui date de 2008, et ensuite des épisodes inédits de la saison 2009, donc la 25e saison, Femme sous influence, Le mal du pays et Franchir le pas. Vite fait quelques petits polars durant toute la semaine. Ce soir sur TV Braze, Columbo inculpé de meurtre, c'est le premier téléfilm de la série Columbo, sorti en 67 avec Gene Barry dans le rôle du méchant. C'est ce soir sur TV Braze. TV Braze, bien sûr, le spécialiste de Columbo.
Non, demain... il passe aussi des arabesques.
Oui, arabesques dans la journée, Columbo c'est le soir. Voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de regarder le programme TV Braze, vous le connaissez. Demain sur France 3 à minuit, dans le cinéma de minuit, Le port de la drogue, Pick up on South Street de Samuel Fuller en 53 avec Richard Widmark et Gene Peters. Alors le la traduction française, le doublage français et le titre français sont une arnaque par rapport à, au trip original du film, qui est une, plutôt une histoire d'espionnage. Et ça a été traduit en français, Le Port de la Drogue. Et effectivement, les dialogues et tout laissent penser qu'il s'agit d'un trafic de drogue, des trucs comme ça et tout. Bref, c'est un petit peu dommage, mais c'est quand même un film à regarder. Surtout que là, bah, demain soir, c'est en version originale sous-titrée. Donc, c'est un petit peu moins dommageable. On a également, comme polar, Olé Flingue sur Ciné Plus Star demain soir, avec le duo Brut Reynolds-Clint Eastwood, le film de Richard Benjamin sous la Prohibition. Alors c'est vachement rigolo, c'est une comédie policière, mais enfin c'est assez rigolo parce que Brut Reynolds et Clint Eastwood, il y a des petits passages où hein, ils se foutent un petit peu de leur ils se moquent de leur parcours, on va dire. Brut Reynolds catalogué comme mec qui fout des bastons et tout, spécialiste des films de castagne et tout, et Clint Eastwood spécialiste des films de western. Bref, c'est assez rigolo comme film à voir. Mardi sur Direct Star, Mercenaires de Jim Wynorski avec Ice-T, Kostas Mandylor, Andrew Divoff et Ernie Hudson. C'est un direct vidéo bien sûr, mais enfin c'est normal, c'est un Jim Wynorski. On a également mercredi sur Paris Première Jesse Stone, un inédit encore comme mercredi dernier. Alors Jesse Stone sans remords hein, de Robert Harmon, ils sont récents, ils datent de 2010. Et pour ceux qui ont loupé le Jesse Stone inédit de la semaine dernière, L'Enfant Disparu, eh bien il est rediffusé juste après celui-là, c'est sur Paris Première mercredi. Et quand je pense qu'il y a des idiots qui regardaient deux cons raconter des conneries mercredi dernier alors qu'il y avait Jesse Stone, ah bah vous avez loupé ça.
Oui, mais désolé, c'était familial, comme match de boxe et popcorn, et 13h55 non, et 50 secondes.
Non, vraiment, très très bon épisode. Alors, quoi le débat? Mercredi sur Ciné Plus Classique, une soirée Hitchcock avec Le Grand Alibi, qui est un film qui a pas du tout marché hein, avec avec Jane Wyman, avec Marlène Dietrich et tout. Et après on nous passe un documentaire à 22h30 qui s'appelle Hitchcock et la Nouvelle Vague, suivi de deux grands classiques, Le Crime était presque parfait et La Mort aux Trousses. Jeudi sur Ciné Plus Club, Portier de Nuit de Lina Cavani en 73 avec Rampling Bogart, un film excellent, magnifique, je vous en ai déjà parlé, et j'ai appris avec stupeur que le DVD n'était sorti qu'il y a 2 mois. Hein, avant, tu pouvais pas revoir Le Portier de Nuit autrement que par des séances comme ça. Alors, il faut quand même rappeler que ce film a été interdit en Italie lors de sa sortie, hein, sur insistance du Vatican, parce que comportant des scènes très très choquantes. C'est vrai que quand c'est une femme qui prend le dessus, c'est pas forcément bien vu, hein, et faut dire que le propos est nettement dérangeant, hein. C'est 10 ans après, une femme retrouve son bourreau de Auschwitz, donc il va y avoir une passion un petit peu torride et un petit peu compliquée, on va dire, hein, pour rester poli. Enfin, c'est un film magnifique, hein, de toute façon, quoi. C'est excellent. On a également vendredi Les Gardiens de l'Ordre sur Ciné Plus Premier, un film de Nicolas Boukrieff avec Fred Testo, qui là est pas rigolo du tout, Cécile de France et Julien Boisselier. On a également sur Orange Ciné Choc, pour terminer, The Chaser, un film que tu avais chroniqué il y a pas si longtemps que ça,
implacable,
en 2008, le film de Na Jing Long. Donc
Là il faut avoir le cœur accroché, voilà. et pas être suicidaire avant, hein.
Tout à fait. Eh bien voilà, j'en ai pratiquement terminé. Tu peux mettre ta musique et tout, et ensuite on attaquera directement la troisième heure et la partie musicale de ça c'est du sport.
Merci du sport. C'est ainsi que se termine le supplément week-end numéro 315. Sauf qu'il y en a des gens qui se sont dit 2 heures c'est un petit peu long, je vais aller aux toilettes, je vais faire de la cuisine, ou je vais aller à la journée portes ouvertes des serres municipales. Et résultat, ils n'ont pas écouté le supplément week-end en entier, donc ils ont manqué des choses. Heureusement Thomas était là pour vous faire un résumé.
Oui, d'ailleurs, notre ami Enfestigrunt nous dit par Twitter Thor, T-O-R, Thor, T-H-O-R ou Thor, T-A-U-R.
Voilà. Bonne question.
Alors, aujourd'hui, nous avions la présence parmi nous d'Olivier, qui nous a fait sa première chronique. Je pense que tu reviendras.
Avec plaisir.
Des autopsies à Baltimore, des malfrats, des trahisons, des aliens nymphomanes, aliens us girl, mon gars, du rétro avec des trams, du Sentai avec des contrats, des coping en lycra, trois animés en VO japonais et de la télé en méga vitesse.
Nom d'un placard au trésor farci de vidéos d'interviews rares de triathlonciens avec de la poussière dessus envoyée à la benne. Vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission. mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr sans accent ni tiré. Supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Thomas et du sport vont toujours essayer de me trouver mon remplaçant puisque Olivier, lui aussi, se trouve être sous le coup de la même période d'occlusion radiophonique. C'est triste.
Alors, la semaine prochaine, il sera question de bande dessinée pour enfants. Et en film, aucune idée.
Ouais, on verra.
Il y a personne qui veut se faire là le pavasse de 700 pages, c'est un tome 3. Parce que écoutez bien le bruit.
Alors la semaine prochaine dans Ça c'est du sport, il y aura des invités. C'est une association qui s'appelle Rebond et qui fait de l'insertion dans le domaine du sport. Voilà, ça c'est samedi prochain dans Ça c'est du sport aux alentours de 13h30 comme d'habitude.
Oui, parce que là on a dépassé. Je le laisse de suite parce que Duss m'a dit la musique n'attend pas et le jazz n'attend pas bien sûr.